Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 30e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 mars 2006, jour de la Saint-Guénolé. Voilà. Après les jeunes, les vieux, nous allons vous parler de nous, puisque le thème de l'émission d'aujourd'hui pour la 30e est les trentenaires. Messieurs,
c'est
dames.
C'est nous. Ceux qui ont moins de 30, ils sortent. Ah merde, j'étais pas encore. c'est pas dans le temps.
Bah ouais, non, mais t'as pas le droit. Il faut lever la main quand tu veux parler et tout, et puis voilà.
Voilà, oui. Faut que tu demandes l'autorisation. Donc avec nous aujourd'hui Flo.
Ouais.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Flo.
Voilà. Bah ça dépend à quelle heure on écoute.
Oui, mais là nous on est le soir.
Bah, t'as qu'à dire bonjour, et puis voilà.
Oui, bonjour. Bonjour Flo. Alors tu vas nous parler de quoi dans ta chroniquette aujourd'hui, Flo ?
Dans ma chroniquette, je vais parler d'un film qui m'a beaucoup plu, je ne sais pas si ça...
Oui,
si
bah,
ça
comme d'habitude.
Oui, ben voilà, ça s'appelle Orgueil et Préjugés.
Oui, ben bah, tant pis.
Voilà.
Ah bon, ils l'ont tourné en film celui-là aussi ?
Ouais,
oui,
le bouquin.
Ça, ça me dit quelque chose.
Ouais,
ouais. Et ben le film il est vachement bien, du coup j'ai envie de lire le bouquin.
Ah.
Ah, ouais.
Fais gaffe, hein, c'est pris sur ton temps de chroniquette.
Oh, merde, j'enlève.
Donc, après Flo, celle qui doit demander l'autorisation pour parler...
Je peux, là ?
Béa, vas-y.
Bon,
tu vas nous parler de quoi, bon joueur, Béa ?
Télé-réalité, c'est original ?
Oui.
Ouais. Mais il y a des trentenaires qui regardent, je suis sûr.
Oui, bah, y en a plein.
Hein. Oh, sûrement.
Il n'y a pas que ça.
Ensuite, Cray.
Oui, Cray. Donc, moi, je vais
c'est
vous parler... Bonjour, déjà.
Bonjour, Cray.
Bonjour à tous.
Dis bonjour à nos auditeurs, à notre auditeur.
Exactement. Et moi, je vais vous parler d'un petit journal que j'ai découvert récemment qui s'appelle La Décroissance.
D'accord. Et Cray, voilà. Aussi qui animera le débat thème sur les trentenaires.
Exactement.
Toi, tu les as déjà. T'es...
Tu dois faire gaffe, le chat qui essaye de boire dans ton verre.
Tu fais attention, le chat. Hein. Toi, il y a longtemps que t'as déjà eu 30 ans, toi.
Oh là là, oui. Un an.
Oui, bah, ça fait longtemps.
Hein. Oui.
Et ensuite, Ariane, qui nous a préparé quoi, à part pas grand-chose ?
Bonjour.
Bonjour, Ariane.
Bonjour. Mais écoutez, moi, je vous parlerai donc dans ma chroniquette de Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas.
Mais vous verrez, il y a un rapport...
C'est passé ?
Oui, c'est passé.
Oui, mais ça
peut
venir.
Non,
ça peut être à
venir.
Ça va revenir. Mais vous verrez que c'est un rapport avec les... Vous verrez, c'est un rapport avec les trentenaires.
Eh bien, nous verrons. Et nous finirons en beauté. Bonjour, Numa.
Bonjour.
Et toi, tu vas nous parler ?
Je vais vous parler.
Bah c'est déjà pas mal.
Voilà, ça s'appelle le singe Perlin.
Oui.
le singe Perlin ou le pèlerinage d'Occident, donc c'est de Watching N.
D'accord, et puis en plus, comme t'es en dernier, t'auras le temps de lire le livre d'ici la fin de l'émission.
Ça
si ce n'est déjà fait.
Bah, j'ai pas fini celui-là.
D'accord.
Bah, c'est pas vrai.
Il y a un joli dessin sur la couverture toujours.
Mais c'est pour ça que je l'ai pris.
Bonne idée. Eh bien, on va pas attendre des plombes. Allons-y pour les trentenaires. Eh bien voilà, Cray, c'est à toi. T'as demandé aux gens de préparer des trucs... je sais pas s'ils ont tous préparé des trucs. Enfin, moi j'en connais au moins deux.
Ouais.
Qu'on peut préparer grand chose.
Bon, et ben c'est pas grave, ils auront.
Comment tu veux que je prépare ?
J'espère bien que
pas accès à l'ordinateur à la maison, je peux pas jouer avec Internet.
J'ai regardé 2 minutes pour vérifier un truc.
Vas-y, donc.
C'est pas grave, j'ai des trucs à dire quand même.
Voilà, j'espère bien
donc,
quand même.
Très
que
bon
sur
courage.
Un sujet, sur
on
les trentenaires.
On te laisse les clés de l'émission, à tout à l'heure.
Tout le monde.
Non, mais en
okay,
revanche,
salut,
j'ai bien noté le thème qui m'était imparti, il n'y a pas de problème, j'aurai des trucs à dire.
Bon, ben voilà. Donc, les trentenaires, pourquoi les trentenaires ? Ben, on avait déjà fait une émission sur les vieux, on avait fait une émission sur les jeunes, on n'a pas arrêté tout le temps nos diverses émissions de parler des gens qu'on connaissait peut-être moins que nous-mêmes. Et donc,
voilà.
Comme cette fois-ci, cette fois-ci, on avait décidé de faire une émission sur nous, les trentenaires. Alors, les trentenaires, c'est la tranche des 30-40 ans, c'est 17% de la population française, à peu près un peu plus d'un Français sur 6. C'est les enfants de ceux de 68.
Aïe.
Mais eux, qui sont-ils, hein, parce que coincés entre le gaullisme et Internet et l'explosion des nouvelles technologies, c'est difficile en fait de leur trouver une réelle identité.
On dit que c'est des mous.
Donc c'est les adolescents des années 80.
On est taxés de mous.
Ça dépend lesquels.
Oui. Ben c'est les adolescents des années 80. On ne sait pas trop ce qu'ils sont exactement. Cette espèce de génération Mitterrand. Ces étudiants qui ont été coincés entre De Vaquet et Juppé. Ces travailleurs aujourd'hui avec RTT, rescapés donc du CNE, puisque eux, a priori, ils sont déjà dans le marché de l'emploi.
J'espère.
Pas tous, il y en a qui traînent encore.
On a du mal à trouver de grands faits à leur actif.
Oui.
Donc,
les grèves de 95
ans, c'est déjà pas mal.
C'est aussi une génération inquiète de son avenir, qui observe. C'est une génération qui, comme elle a aujourd'hui 30 ans ou plus, a atteint une certaine maturité, est installée dans sa vie d'adulte et l'assume. Donc elle est inquiète, elle se projette aussi parce que à son tour, elle va avoir des enfants et donc elle s'inquiète pour le monde qu'on va leur laisser. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'action directe, il n'y a plus de gentils écolos, Greenpeace, ça y est, c'est ringard, c'est fini. Aujourd'hui, il y a les alters, il y a les anti-mondialistes. Et peut-être que justement, c'est de cela que les trentenaires vont faire plutôt partie.
Ou pas.
Ou pas.
Ou pas, ouais, moi je dirais. Ou pas. Bah, enfin, ce que j'en ai observé, c'est ou pas. Hein.
Bon. Sinon, si on peut quand même remarquer quelque chose, c'est que c'est peut-être la première vraie génération 100% télé.
Ah, c'est ce que j'allais dire.
C'est la première génération qui est complètement inscrite dans la société de consommation. C'est aussi celle de l'acceptation de tout un tas de choses, dont l'homosexualité, dont l'émancipation des femmes.
Tout le monde.
Tout le monde l'accepte dans pas, mais dans la génération 30-40,
non mais, 30, 40, non, mais
ouais,
c'est
l'acceptation. Du coup, tu n'es pas obligé.
Du coup, c'est peut-être celle qui réagit le plus, en fait, le plus violemment, si tu veux, entre ceux qui ont jeté la
télé.
Oui,
mais à la fois plus violemment, mais c'est peut-être
ceux qui sont collés
pour lesquels
à la télé.
Le tabou est passé et on peut en parler. C'est aussi la génération du sida.
Il y a des gens qui réagissent plus violemment, peut-être que. Parce que on le dit, à l'avant, les gens réagissaient pas vraiment, parce que pour eux déjà pendant longtemps ça existait pas, ou que dans les prêches du curé, enfin, ça c'était pas imaginable. Maintenant on en parle, donc on sait que ça existe, on en voit, il y en a même qui viennent te serrer la main des fois, hein. C'est incroyable. Donc les gens réagissent violemment, mais je suis pas sûr qu'ils auraient réagi moins violemment avant. D'ailleurs ils se taisaient, les homosexuels, parce que peut-être on aurait réagi beaucoup plus fort que maintenant on réagit.
Voilà,
parce qu'on les protège, la société essaye de les protéger et de les intégrer, si je puis me permettre.
Exactement. Donc pour reprendre dans l'ordre, donc je disais tout à l'heure, c'est la première génération télé. Et donc est-ce que justement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que justement la télé est particulièrement ciblée ou non sur les trentenaires ? Est-ce que la télé est orienté particulièrement vers la trentenaire ou pas ? Est-ce que les réciproquement, est-ce que les trentenaires sont très
Je crois que la télé n'a pas encore compris que c'était une cible particulière. La télé parle encore de la ménagère de moins de 50 ans. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Or, effectivement, les trentenaires sont une cible énorme sur plein de choses et de loisirs individuels dont fait partie la télé. Et en fait, je sais pas, pour moi les trentenaires, ils ont plus consommé la télé à travers le temps, ils sont plus dans la nostalgie.
Oui, voilà, en fait, parce que
ce qu'il y avait avant, la télé peut s'en servir parce qu'on connaît les best-of, les classements, les machins, ça a commencé par la musique, la télé prend le créneau maintenant. Je suis pas persuadée que ce soit une cible que ceux qui font la télé ont compris.
Si ta télé en fait, elle cible
on se fond dans la masse. On prend tout.
Il n'y a pas de toutes les séries.
Les séries, je pense.
Genre
qu'il y en a
Urgence,
une,
genre ce genre de choses.
Emblématique, c'est Friends.
Voilà, est-ce que Friends, c'est pas.
C'est Friends. Ouais, là,
donc,
ça
en
me
fait,
slip complètement.
Ce que tu nous dis, c'est que c'est pas spécialement l'affaire.
Sincèrement, moi, j'en ai pas l'impression.
Non, moi, je dirais que la télé, elle vise les 31 plus à travers tout ce qui est DVD et trucs comme ça, en fait. Il y a qu'à voir,
on parle de la télé, on ne parle pas des DVD.
Oui, mais ton DVD, tu le regardes sur ta télé, en fait, et
oui,
la
non,
télé,
mais c'est
elle
pas,
tape là-dessus.
C'est les émissions
hertziennes. Là, je parlais, effectivement, la question est concernée, de effectivement, des chaînes de télévision.
Des programmes.
Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient compris cette cible-là.
Et pourtant, inversement, donc, les trentenaires sont particulièrement télévores.
Sûrement, parce que moi, je fais un lien tout de suite. Je sais plus combien de pourcents c'est, mais c'est énorme. Les trentenaires sont célibataires. J'ai encore entendu chiffre hier, et c'est énorme. Les trentenaires sont célibataires. Donc, effectivement, la télé est un loisir d'individuel, enfin de gens tout seuls. Donc, effectivement, il y a certainement beaucoup de trentenaires qui regardent la télé. Mais je pense qu'ils ne sont pas une cible marquée. Ils consomment ce qu'il y a et ce qui leur plaît dedans, à part peut-être effectivement quelques séries, tout ce qui marche actuellement, les séries courtes sous le modèle états-unien, c'est plus 90 minutes, c'est 60. Ça marche bien, ouais. Je pense que ça, ils consomment beaucoup, mais il y en a beaucoup. C'est les ados qui sont ciblés.
Donc en fin de compte, le trentenaire s'adapte. Le trentenaire est très adaptable.
Celles qui durent 20 minutes, une demi-heure, c'est plus fait pour les ados quand même. Oui. C'est de plus en plus débilisant.
Voilà, toutes les séries américaines là, avec un peu de surnaturel, là, c'est pour les ados. Après, effectivement, alors, pour moi, il y en a une emblématique, c'est Friends. Mais c'est bon, ça fait quand même 2 ans que c'est terminé.
Il n'y a pas des tranches horaires qui seraient plus spécifiques.
Bah justement,
parce que dans
la
télé, on sait bien qu'il y a des tranches horaires qui sont destinées à un public qui apprécie.
Non, parce que à chaque fois, je pense que à chaque fois, ils parlent encore de la ménagère de moins de 50 ans. On ne sait plus à quoi elle ressemble, cette ménagère de moins de 50 ans. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est vieux jeu?
Elle a entre 18 et 50 ans.
Bah, puis déjà, la ménagère de moins de 50 ans.
Moi, je dirais que depuis le temps que j'en entends parler, elle doit avoir 70, 80.
Elle a surtout tendance à disparaître, la ménagère de moins de 50 ans. Parce que
il me semble aussi, mais
ils parlent pas encore.
Mais oui, mais ton trentenaire, il n'a pas plutôt glissé plutôt vers tous ces jeux, etc. Parce que moi, je vois encore la discussion de ce matin qui était entre trentenaires, justement, et ils étaient tous en train de parler du jeu là d'Arthur, où c'est à prendre.
Mais c'est pas ciblé sur les trentenaires, tout le monde regarde, et c'est beaucoup de, par exemple, des couples de retraités qui regardent les jeux télé. Ce n'est pas ciblé sur les trentenaires. Il ne cible pas. Le trentenaire consomme, mais il ne cible pas le trentenaire.
Oui, mais là, pour le coup, si tu veux l'émission, moi, je ne l'ai pas vue, mais ce que j'en ai entendu, enfin, si j'en ai aperçu un extrait un jour...
C'est pas la peine de perdre du temps.
Mais ce que j'en ai retenu, en fait, c'est que tous ceux qui la regardent, à chaque fois, ont remarqué la même chose, c'est toujours de chouettes mecs, de beaux mecs, de belles nanas et tout. Vraiment,
ça cible pas sur les trentenaires, ça.
Non, donc, ça cible pas. Il y a peut-être un type d'émission qui est vachement regardé pour les trentenaires, et c'est la télé-réalité. Et plus, en plus, au second degré. Autour de la machine à café, dans toutes les sociétés, tout le monde va parler de la dernière émission de télé, enfin,
oui,
tout le monde, presque, de la dernière télé-réalité sortie. Et je pense à la nouvelle star qui est partie. Tout le monde la regarde pour se foutre de la gueule des gens. En gros, si c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, mais c'est comme
ça
qu'on appelle
ça. Radio Crochet Télévision.
Oui, mais c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant.
Sur cette émission, on se trompe. On voit pas les gens vivre. On les voit à un instant.
Mais on ne
voit
pas les gens vivre dans la télé-réalité.
Ça pue le cynisme, en fait.
On les enferme quelque part et on les voit vivre pendant un certain temps.
Je t'en parlerai tout à l'heure.
Enfin, bref.
Moi, je trouve que tout ça, ça sent le cynisme et la frustration.
On va pas s'étendre plus longtemps sur la télévision. Ce qu'on en retiendra, c'est que finalement les directeurs des programmes n'ont pas ciblé particulièrement les trentenaires.
J'ai pas l'impression.
Mais que les trentenaires, ça les empêche pas pour autant d'être publivores. Télévores.
Aussi.
Voilà. Donc j'aurais souhaité quand même, puisque la génération des trentenaires, c'est aussi la première qui a appréhendé Internet, que Darty puisse nous en parler un petit peu. Malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir, c'est pas grave.
Si, un petit peu quand même, d'ailleurs, Darty.
Oh bah,
s'il écoute
l'émission, il va être content.
Nous sommes de tout cœur avec toi.
Darty, on t'aime.
On t'aime toujours.
Le fait reste là. Maintenant, moi, je suis personnellement un grand consommateur d'Internet. Bon, c'est aussi lié au fait que moi, je n'ai pas de télévision. Donc, je passe à peu près l'équivalent de temps à peu près sur Internet, je pense. Mais vous-même, êtes-vous aussi des grands consommateurs d'internet?
Non, Flo. Moi j'utilise comme un outil, mais si tu veux, moi je suis assez. Je dirais que c'est vraiment la génération charnière. En fait, c'est mitigé. Parce que quand je vois dans mes amis, il y a vraiment ceux. Je suis considéré comme expert informatique.
Voilà, hein, et ceux qui sont dépassés. D'accord.
Voilà. Oui. Et alors moi, expert informatique, si tu veux, mon petit frère l'entendrait ça, il serait mort de rire.
Parce que c'est un peu l'impression.
Je pense que c'est la génération qui suit,
voilà,
qui va être complètement informatique,
qui va être à fond informatique. Nous, on a un peu été pionniers.
J'aimerais en mettre un point aussi. C'est pas parce que tu utilises Internet que tu es un expert informatique, et heureusement, sinon personne l'utiliserait, ou très peu. Enfin voilà, il suffit de
non, mais on
de
servir d'utiliser l'outil, c'est pas parce que tu regardes
c'est
la télé,
deux choses différentes.
Ça marche.
Oui, non mais tout à fait.
Non mais moi pour mes amis,
faut
voir pour
revenir sur le terme d'expert informatique.
Ah oui oui, non mais moi on m'appelle régulièrement pour aller dépanner un ordinateur quoi, si tu veux, moi qui me sers d'internet un peu, qui sait me servir d'Excel, de Word, de Photoshop.
Mais c'est intéressant finalement parce que effectivement notre génération, c'est aussi ceux qui sont les premiers, on va dire, à l'aise avec les nouvelles technologies, avec le high-tech, on va dire.
C'est normal, mais c'est la génération qui a inventé ça.
C'est normal parce qu'on on va dire qu'on a débuté ensemble, entre guillemets, donc c'est toujours facile d'apprendre à se servir de quelque chose qui fait ses premiers pas, alors que quand il faut se jeter dedans et que le truc est déjà à peu près construit, on a une somme de connaissances à accumuler, on n'a pas toujours envie, pas toujours le courage, et voilà, il faut les voir, hein. Moi, il faut voir mes parents devant la télé, ça me rappelle la pub, et tu sais à quoi ça sert une souris, est-ce que tu sais ce que c'est que cliquer sur la souris, quoi. Un peu ça.
Et même justement, sans être expert informatique, moi je suis une bille en informatique, j'ai plus de feeling avec Internet que effectivement la génération de mes parents, où ils peuvent se servir d'un ordinateur, mais ils sont largués sur le net.
Mais ils sont pas nés avec.
Bah voilà.
Nous on est plus ou moins nés avec.
Mais alors,
notre adolescence avec, on a commencé à travailler avec.
Internet, 95, ça démarre.
On a aussi
travaillé avec.
Non, voilà. On l'a vu même un petit peu à l'école, on avait des ordinateurs. Tout simplement, alors que
on a eu accès assez rapidement.
On avait accès, même si on a eu une base plus ou moins sommaire.
Et effectivement, les générations suivantes, elles vont être élevées avec l'informatique, Internet.
Ah, ils vont nous meuler, là.
On est déjà des stagiaires, mais maintenant, quand on a une question à poser, c'est pas au service informatique qu'on va demander, c'est aux stagiaires qui sont là.
C'est clair.
Même s'ils sont stagiaires, pas du tout en informatique.
C'est classique, effectivement. On est un peu la génération de la transition pour Internet. Internet, c'est un peu l'opposition entre la nouvelle technologie et puis, on va dire, la civilisation de l'écrit, quelque part. Et justement...
Putain, on a vu la perche, là.
Ah bah oui, évidemment. je vois que tu es attentif à ce que je raconte.
Je suis attentif.
Bravo, effectivement, ça va être ton tour. Est-ce que les trentenaires sont bibliophiles? Est-ce que les trentenaires lisent? Est-ce que un peu dans le même esprit que ce que je demandais à Béa tout à l'heure, est-ce que les trentenaires sont un public visé par les éditeurs ou est-ce que tout simplement puisqu'il s'agit de création, est-ce que les auteurs s'adressent en particulier ou pas en partie aux trentenaires?
Non.
Est-ce que
Il n'y a pas de littérature qui vise cette tranche d'âge.
Il n'y a pas de cible en littérature. Et pourtant, ça vient.
Il n'y a pas de cible pour les trentenaires.
Il y a des écrivains de 30 ans. C'est pas forcément de la littérature. Il y a peut-être des bouquins de gars.
Il y a Bridget Jones.
Il n'y a pas de cible, si tu veux, en tant que stratégie commerciale.
Des gens comme
Marc. Par contre, toute la littérature ne va pas s'adresser forcément à tout un public.
Ouais, je sais pas, moi je dirais c'est sûr.
Pour moi, est-ce qu'il y a
une littérature destinée aux trentenaires?
Moi j'ai l'impression,
en tout cas, la télé
reflète quand même pas mal ça. Dans beaucoup d'émissions, il y a des émissions littéraires, mais même autrement, dans des talk shows, ils vont souvent présenter un bouquin. Et ben là par contre, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ciblent, les 30-40 ans.
Ouais, le marketing
et surtout,
du livre, par contre.
Parce qu'ils nous présentent des écrivains, de jeunes écrivains, et qui ont 30 ans minimum.
Bah voilà, mais
avant,
c'est
vachement
parce
dur.
Que les jeunes écrivains,
alors
après,
ça,
on les connaît
partie,
déjà.
Mais bon.
Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est pas un public visé. Il y a des écrivains qui ont la trentaine et qui vont évidemment plus me toucher personnellement par leur écriture,
voilà, c'est ce que j'allais dire.
Par leur univers, ouais. que que
et parce
que certains
vieux,
parce
qu'il raconte. Alors voilà,
mais
c'est
autre chose.
C'était la seconde partie.
C'est
autre chose. Que la littérature, il y a aussi les bouquins de guerre, les bouquins,
oui.
La vie de machin,
oui.
La vie
la bande
de
dessinée,
ce qui font les plus gros tirages. Mais c'est vrai qu'en littérature, d'abord, c'est pas forcément le tirage. Il y a des bouquins qui se vendent qu'à 3000 exemplaires.
Et en littérature, c'est pas les plus intéressants.
Bah non.
Parce que c'est pas mûr.
Un bouquin de littérature, le prix Goncourt, il fait quoi quand il arrive à faire 100 000 exemplaires? C'est extraordinaire, ça fait 40, 50 000 exemplaires. Ben voilà, c'est très très peu et c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent juste à rentrer dans leurs frais et créer des œuvres littéraires, artistiques. Mais dans les livres, il n'y a pas que la littérature. Et,
non, mais après.
Dans la littérature, on peut pas je pense pas qu'ils cherchent à cibler. Mais dans tous les autres styles de livres, c'est du marketing, ils cherchent à cibler.
Non, dans la BD, effectivement, oui. Et en fait, tu as senti une évolution. Non, mais même si tu prends la BD, en fait, tu as eu une évolution. On est passé de la BD, de la BD qui était vraiment tendance belge, avec plus confidentiel, les BD un peu plus aventure, enfin Hugo Pratt ou autre, je classerais plus ça, enfin, je classerais ça sur un autre style de BD, enfin plus confidentiel par rapport à ce qui se faisait en Belgique. Et là maintenant, ça prend, il y a de plus en plus, il y a un gros essor de la BD d'auteur en fait. Et là, c'est non seulement des jeunes qui ont 30 ans, mais qui s'adressent vraiment à un public qui a au moins 25-30 ans. Sinon, c'est même pas la peine quoi. Il y a des BD.
Mais c'est plus la BD jeunesse. Hein.
Ouais, non, c'est fini. Et mais je trouve que justement, ça montre bien ce qu'est cette génération de trentenaires actuelle. Ce sont des grands enfants. Et ils y tiennent. Ils ont envie de loisirs.
On voit
ils ont
ça aussi à travers les jeux vidéo.
Et ça,
on voit
c'est
ça.
Énorme.
Oui, parce qu'on est aussi c'est la génération énorme. Du loisir. Hein,
mais bien sûr.
Assumer.
Et justement, beaucoup de trentenaires le revendiquent, ce sont de grands enfants.
Mais
et
pour revenir sur ce que Flo disait, je pense aussi que tout simplement, ils font la BD qu'ils auraient voulu lire. Et tu fais la BD que t'aimes. Et donc, si t'as 30 ans, automatiquement,
pas
tu vas toucher.
Que tu voudrais lire maintenant.
C'est
que
normal.
Tu voudrais lire
maintenant. Oui, mais eux, ils font ce qu'ils veulent faire. Quand tu fais une bande dessinée, tu penses pas à ton public.
Oui.
Ou alors t'es un con. Tu fais ce que t'as envie de faire et après, si tu touches, ouais, tant mieux.
Moi, je crois que c'est pas tellement par l'écriture, la création. Je pense que c'est plus par l'univers que ça va attirer plus les trentenaires et exclure un petit peu les autres. C'est par l'univers, par ce qu'ils racontent, que ce soit en BD ou en bouquin.
Mais c'est exactement ça. Tu parlais tout à l'heure de grands enfants. Effectivement, les trentenaires sont pour beaucoup de grands enfants.
Ah mais ouais.
Moi, je pensais notamment
en BD,
au manga. Au manga qui, ça fait déjà des années que ça existe au Japon.
Mais parce que finalement, je pense que
en Europe et en France,
une génération emmène avec sa maturation, elle emmène ses souvenirs, elle emmène ce qu'elle a connu,
ce qu'elle a
débuté.
Plein de traces.
Les trentenaires, c'est ceux que quand ils avaient 10-20 ans, entre 10 et 20 ans, donc.
Ils regardaient Candy, ils regardaient Goldorak.
Ils étaient en plein dans les mangas,
ça les arrivait dans la gueule. C'est ce qui nous est arrivé dans la gueule.
Ça les a su.
Ouais.
Et puis maintenant, on peut les retrouver. Vidéo, maintenant, effectivement, la télé nous le remonte. On sort des best-of de musique. On a plus de traces aussi. On peut le garder, ça, par rapport à avant.
Oui, non, puis on a certainement plus de loisirs, parce que je sais pas si vous avez parlé
sûr.
Un peu avec vos parents, quand même, nos parents 68 heures, etc. Moi, quand j'en parlais avec ma mère, loisir, le mot loisir, ça n'existait pas. Le mot jouer, ça n'existait pas. Et tous ces trucs-là, en fait, ils n'avaient pas.
Ils allaient au foot.
Ils allaient au patronage.
Ouais.
Ils allaient au bal. Voilà, ils avaient sans doute plein d'activités.
Mais on n'est pas là pour parler
et inversement, cette fois-ci, sans parler du public, en parlant des auteurs, comment ça se passe les auteurs qui ont 30 ans, est-ce qu'ils arrivent à trouver... Enfin, on entend souvent parler de jeunes femmes, de jeunes hommes moins. Est-ce que c'est une génération qui produit du livre ou pas?
Il y a une chose moi que je trouve assez particulière, c'est l'expression un jeune auteur. Quand on parle d'un jeune auteur, il a effectivement au moins une trentaine d'années, alors que normalement quand on dit jeune, on entend plutôt 20 ans.
On voit plutôt 40. Oui, mais c'est
cette expression de jeune auteur, ça veut dire qu'il y a aussi une maturité.
On n'est pas vieux à 30 ans.
Oui, mais
c'est ce qu'on pensait quand on en avait 15, mais maintenant
on n'est plus un gamin non plus quand on a 30 ans. Et effectivement, Numa tout à l'heure parlait de maturité dans l'écriture. À 30 ans, on n'est pas fini.
À 30 ans, c'est pas très intéressant. On voit les prémices de ce que ça va,
de ce que,
de
ça,
ce que
peut
ça peut devenir. Voilà. Mais
ça dépend. Il n'y a pas de règle.
Mais non. Ça veut dire qu'à 30 ans, on est considéré
non,
comme
jeune. Non, mais c'est rarement abouti. Ou... Évidemment, on ne va pas parler de gens comme Rimbaud qui ont fait tout beaucoup plus jeune. On va pas parler d'un
jeune
hyper. Il y en a beaucoup qui. Où
quand
c'est pas intéressant.
Les gens sont matures maintenant. À l'époque, ils étaient morts depuis longtemps.
Vous n'allez
pas tarder.
Il y a aussi ton temps de productivité. Parce que bon, tu commences à écrire à 30 ans. Mais enfin bon, à 80 ans, personne ne t'empêche d'écrire. Il y a d'autres choses qu'à 80 ans, tu ne pourras plus faire. Enfin,
tu peux toujours écrire.
À 36 ans, en sport, tu es considéré comme vétéran.
Mais là, on parlait de littérature.
Oui, non, mais si tu veux, mais il y a des échelles, quoi. Si tu, il y a des, la littérature, en fait, tu peux continuer d'écrire jusqu'à très tard, quand même. Tant que t'es capable de raisonner un minimum, tu peux le faire. Physiquement, pour d'autres trucs, t'es quand même plus limité.
Mais il suffit de regarder Jean d'Ormesson.
Oui, tout à fait. Ou Robert Merle, ou d'autres. Oui.
Quel âge il a, Jean d'Ormesson?
Très vieux.
Les fortunes de France, qu'il a commencé à écrire à 80 ans et qu'il a fini à 101 ans, il est mort.
Ah, il est
décédé,
Robert Merle.
C'est Robert Merle, ça, pour ceux qui.
Oui, c'est ce qu'on a dit.
Et en plus, c'est pas trop gaga.
Il était en train de parler de
Jean d'Ormesson.
De Jean d'Ormesson.
Qui va fort bien.
Donc, il va fort bien.
Je l'ai croisé il y a pas si longtemps.
Et qui est encore d'une richesse intellectuelle qui en fait pas lire plus d'un, quand même.
Oui, sans doute. Je n'en doute pas.
Parce que moi je dis c'est ça pour me moquer.
Oui. Après la littérature, le cinéma. Alors le cinéma est-il à son tour utilisé enfin, est-ce qu'il y a un cinéma ciblé pour les trentenaires? Là, je pense que plus que oui.
Je sais pas si, oui, on peut dire ça parce que en fait, de toute façon, la génération de jeunes acteurs, de toute façon, a 30 ans, et c'est un peu comme si tout d'un coup, on pouvait se venger. Enfin, les jeunes réalisateurs aussi ont 30 ans, et c'est comme s'ils pouvaient se venger tout d'un coup de ce qu'on ne dit pas sur eux, ou du moins essayer de régler leurs problèmes. Je sais pas, tout le monde a en tête l'auberge espagnole, après les poupées russes, enfin bref, etc.
Et puis là, il y en a avec
l'auberge espagnole, c'est
complètement ça.
Voilà, j'ai 35 ans, je suis célibataire.
Ouais.
Et Bridget Jones.
C'est un sujet très utilisé,
Jones,
en tout cas.
Non, c'est pas pareil. Bridget Jones, c'est anglo-saxon, c'est un autre humour. C'est vraiment.
Oui, mais, c'est,
oui, mais
on
par
est
contre, on est dans la même veine.
C'est dans la même veine, mais non, mais le côté d'âge. Français est plus différent. Le côté français, c'est vraiment plus une espèce d'introspection d'autopsychanalyse. Alors que les Anglais, Bridget Jones, le truc, c'était rigoler, quoi. Enfin, ça fait
oui, mais c'est les trentenaires typiques qui cherchent à se caser, qui sont des catastrophes en cuisine, qui sont, enfin, notamment
non,
pour les femmes.
Pas tant que ça, parce que moi, c'est du moins, je
dans l'auberge espagnole, on fait pas que pleurer non plus.
Oui, non, mais je
et
le
puis
vois,
ils ont
si
un peu moins de 30 ans.
Et l'auberge espagnole,
ils ont pas
30
ans,
25 ans.
Oui,
ils sont plus jeunes, mais ça reste aussi
ils
dans la nostalgie, c'est que les trentenaires. Voilà.
Je pense que ça s'adresse d'ailleurs plus aux trentenaires qu'aux étudiants.
L'auberge espagnole s'adresse aux étudiants qu'on était quand l'auberge espagnole est sortie. Et les poupées russes s'adressent aux trentenaires qu'on est maintenant. C'est
des études pendant longtemps.
On parlait aussi tout à l'heure de la gare. Prend par exemple les films d'animation japonaise, notamment.
Je suis sûr que ça touche. Évidemment, je n'ai pas les chiffres, je parle un peu dans le vide, mais moi je suis particulièrement
plus.
Je pense que je
ne
suis pas le seul.
Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup, notamment. Alors, ça, c'est un point de vue purement personnel, après les chiffres disent peut-être le contraire, mais qu'effectivement, de plus en plus de dessins animés ou de cinéma d'animation peuvent être regardés à deux vitesses, c'est-à-dire à la fois par les enfants qui y trouvent quelque chose et par les plus vieux, donc effectivement les trentenaires qui y trouvent d'autres choses. Ouais. Tu prends un truc comme
Shrek,
par
exemple.
Bien sûr,
pour écraser Walt Disney.
Je vais faire un parallèle un peu
créneau.
Curieux. Mais finalement, c'est un peu comme Astérix, tu vois.
Ouais,
Astérix, tu peux le lire à plein de degrés. Mmh. Et finalement, ces films de Miyazaki, c'est un peu la même chose, effectivement.
Mais c'est visible
par tout un tas de publics différents. Mais je pense que quand même, les trentenaires sont particulièrement sensibles à ce genre de cinéma.
Miyazaki, si tu veux, c'est un créneau, en fait. C'est tout simple, c'est un créneau. Ce qu'on voit de Miyazaki maintenant, c'est tous ces vieux films. C'est des trucs qui datent des années 90. Ça ne sort que maintenant en France.
On retombe un petit peu sur ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que...
Notre culture manga, quoi. Enfin, notre découverte du manga avec Candy, avec Albator.
Le trentenaire est encore un peu enfant.
Ouais. Mais il est encore très enfant.
Mais carrément.
Il est très
on
enfant.
Aime bien jouer.
Et conservateur un petit peu, finalement.
Nostalgique.
Alors, est-ce que c'est toutes les générations de trentenaires qui sont comme ça? Ou c'est spécifique
non,
à notre génération à nous?
On a des responsabilités plus tard maintenant. Et je pense que ça, c'est énorme.
Oui, voilà.
L'importance que ça a. On est plus longtemps chez les parents. Les gens se marient plus tard, font des enfants plus tard.
Parce que 25 ans. Ça dépend aussi des milieux. Ça dépend des gens, mais c'est vrai que souvent la moyenne, je crois que c'est aux alentours de 25 ans
ouais.
Pour un premier enfant.
Ouais.
C'est... 7 ans plus tard que ne serait-ce que nos parents.
Justement,
où elles avaient même pas de poils, elles avaient déjà un môme.
Si c'est un passage dans ton plan, il y a un truc quand même qui est hyper important chez les trentenaires, c'est les célibataires. Mais évidemment, vous ne vous l'êtes pas.
Mais si, moi je suis célibataire.
Les célibataires.
Mais je suis célibataire.
Moi aussi.
Oui, bah, je m'entends. On n'est pas obligé de passer par le mariage pour parler
aussi,
de célibataire.
Il y a eu d'excellents.
Les gens qui vivent seuls sous leur toit.
Qui vivent seuls.
Mais
c'est énorme.
Ça, tu vois, je trouve que pour le coup, c'est un truc que le cinéma rend bien. Si tu veux, entre le célibat des trentenaires et aussi ce problème de la réussite sociale. Je ne sais pas si vous. On est quand même, mine de rien, la première génération pour laquelle se pose la question de l'échec.
Est-ce que tu pourrais arrêter de faire le yo-yo avec ton micro devant ta bouche?
Ça, c'est à cause des années 80.
Non, mais on est les premiers. En fait, on est les premiers à commencer à se poser cette question-là. Et ça, tu le retrouves aussi dans le cinéma.
Il y a aussi
une façon. Oui. Et mais il se trouve aussi qu'à 30 ans, si tu prends tes parents avaient été déjà installés dans la vie.
Parce que nous, on est la première génération à avoir le choix.
Ouais.
Surtout les femmes.
Voilà, on veut avoir le choix.
On veut avoir le choix.
Le problème, c'est qu'on devient du coup de plus en plus difficile et que.
Chiant, quelquefois.
Bon. Moi, j'en connais deux qui sont pas si difficiles que ça autour de cette table.
Oui, ça, c'est sûr qu'il faut pas être très difficile.
C'était une façon polie de dire chiant, mais bon.
Non, mais on a raison d'être chiant.
Moi, je prends par exemple ma mère, elle avait 34 ans, elle passait pour un ovni.
Ouais.
La mienne aussi, 35.
Et voilà, elle passait pour un ovni.
La mienne, 18.
Non, ma mère, on avait 26, mais si tu veux.
Très jeune.
La mienne, 25.
Effectivement, c'était plus aux alentours de 25 ans.
Ouais. Bon.
Mais si tu prends
pour
tes parents,
c'est normal.
À 30 ans, tes parents, ils étaient installés, ils avaient leur vie, ils avaient tout. Si tu veux, nous, à 30 ans, on a quoi, pour certains?
Tu te tais.
Sur ce... On va laisser là cette partie-là. Donc on était sur le cinéma. Hein, donc on était parti pour regarder, savoir ce que regardaient les trentenaires. Là-dessus, ils ne vont pas qu'au cinéma. Les trentenaires, comme on le disait, ont pris un petit peu tout ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes pour le conserver. Ils avaient un petit côté conservateur. Je pense que s'il y a quelque chose sur lequel c'est très révélateur aussi, ça va être la musique.
Oui, en parlant de là, tu as mis de là dans une phrase, j'ai senti l'enchaînement terrible.
Et voilà.
Et je suis obligé de le faire à ta place, mais bon, c'est pas grave.
Bon, c'est pas grave, tu l'as fait. Voilà, donc ils ont été très conservateurs sur leur musique. Enfin, moi, je vois notamment, j'ai consommé que la musique des années 80.
Je pense que principalement, il y a plusieurs groupes de nostalgiques en musique dans les trentenaires, dans ce qu'ils écoutent. Donc, il y a les nostalgiques des années 80, il y a les nostalgiques du rock des années 70,
les puristes
qui ont découvert ça par leurs parents, amis un peu plus vieux.
Ouais. J'ai les deux, moi.
Oui,
j'ai le droit.
Bah, on a le droit. Par contre, des gens de 30 ans qui écoutent du R&B, il y en a.
Ah non.
Il y en a sûrement.
De quoi?
Mais
de la soupe, d'accord. Ouais,
c'est la merde.
C'est sûrement pas les plus nombreux. Et il y a qu'à voir les radios qui existent maintenant. Alors, à une époque, il y avait Nostalgie et il y avait que Nostalgie. Maintenant, t'as Europe 2 moins depuis qu'il y a Koé. RTL2,
RFM,
RFM
qui avant étaient très années 70, maintenant ils disent bien des années 80 à aujourd'hui.
Donc évidemment, ce qu'il y a dans les morceaux qu'il y a aujourd'hui, c'est des morceaux qui rappellent ces années-là. C'est-à-dire que, enfin, on est toujours, il y a toujours un air de Beatles comme dans les années 80. Il y avait un air de Beatles. Il y a toujours un côté un petit peu rock. Il y a toujours, enfin. On ne trouve pas le dernier tube de je sais pas qui d'ailleurs.
Qui fait du R&B.
Et, voilà, de Laurie.
Mais est-ce que.
De Sean Paul ou des trucs comme
est-ce
ça.
Que...
Enfin, Sean Paul, nous, on le regarde danser, on est mort de rire.
C'est qui, Sean Paul?
Et les jeunes, ils sont en transe quand ils voient ce mec-là danser et chanter. Et nous, on trouve ça ridicule. De même,
est-ce
quand on voit les jeunes en survêtements, nous, on ne s'habillait pas en survêtements. Enfin, voilà.
Ah bah non, on avait l'air
un décrochage.
Il y a un décrochage
du sport,
d'accord.
Mais les jeunes aiment bien aussi ces trucs-là.
Est-ce que
on les assomme avec ça,
malade,
nous. Et la télé, c'est en ça, la télé,
oui, la télé
au
est
niveau
un relais
musical,
de ça.
Au niveau musical, la télé cible beaucoup les trentenaires parce que dans tous les reality shows, style Star Academy, tout ça, on leur fait chanter.
Oui, donc c'est pas innocent.
Sur 10 chansons, il y en a une de maintenant, il y en a 9 d'avant,
oui,
et beaucoup
sûr.
Des années 80, 70. Après, il y a encore un peu avant. Il y a
est-ce que c'est pas
Piaf,
uniquement
Brel, un petit peu,
est-ce que
mais...
c'est pas une question de confort technique?
Bah, de... c'est vrai que c'est un petit peu léger ce qu'ils font en R&B. Hein.
Ou des
ceux qui ont créé
aussi,
le rhythm and blues doivent se retourner dans leur tombe ou dans leur lit.
Ça n'a rien
à voir, même si ça commence par les mêmes lettres. Ouais. Mais oui, il y a aussi sûrement, oui. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses dans ces années-là. Le répertoire est très riche. Peut-être mis à part finalement dans les années 80 où il y a quand même un grand vide spatio-temporel. Sauf pour les chansons, entre guillemets, entraînantes, rigolotes. Il y a eu une amorce de ce qui existe maintenant, mais c'était brouillon, c'était tandis que maintenant les trucs de R&B, c'est vachement bien foutu. On sent qu'il y a du boulot, que c'est super bien arrangé. Les chanteurs, on aime, on n'aime pas, mais ils chantent bien. Enfin, il n'y a pas de branquignoles comme il pouvait y avoir dans les années 80. Mais c'est beaucoup moins vivant, beaucoup moins rigolo.
C'est comme le patinage artistique.
Ça n'engage que moi-même.
C'est comme le patinage artistique, c'est bien fait. Et on aime bien quand il tombe.
Voilà, oui.
Ouais. Cela dit, dans les trentenaires, il y a un truc dont tu parles pas, c'est la chanson française. Et moi, je trouve que le thème justement là, du trentenaire, il revient vachement souvent.
On avait
en fait.
Changé. T'as
Vincent Delerme qui chante justement les filles de 73 ont 30 ans. Je sais pas si tu te souviens, c'est un truc qui est sorti il y a 2 ans en fait. Les filles de 73
ont
30
ans. Oui, je sais pas, Vincent Delerme, c'est toujours la même chose.
Ça en fait partie. Il y a les amoureux, il y a Benabar aussi, en parlant de nostalgie, qui parle Mariti Gilbert Carpentier.
Et où on sent. Mais finalement, c'est un peu ces gens-là. Sont un peu ils sont plutôt des quadragénaires que des trentenaires.
Quoi,
Benabar,
mais Benabar, ils ont 30 ans, c'est
ils ont 30 ans.
Ce sont les trentenaires.
Donc il y a des trentenaires qui font
des chansons
de la musique pour les trentenaires.
Absolument.
Ils font de la musique et qui sont écoutés par les trentenaires.
Dans ce cas-là, c'est un peu comme dans la littérature, ils ciblent pas, ils font ce qu'ils ressentent.
Et puis les gens s'y retrouvent ou pas.
Ils se retrouvent ou ils devancent et c'est le minimum pour dire.
Mais comme ils parlent de sujets qui sont proches de nous, forcément, on écoute.
Je sais pas, Vincent Delerme, on comprend pas ce qu'il dit.
Je te parle pas de Vincent Delerme, je te parlais de Benabar, en fin de compte, de tout son univers. Moi, je comprends ce qu'il veut dire.
D'ailleurs, son dernier,
soit dit en passant.
Oui, on va pas faire de pub.
Je ressemble à une chipolata.
Bon. Ouais. Donc les trentenaires sont quand même consommateurs de musique.
Ils sont consommateurs.
Mais je très nostalgique.
Ah, c'est ta transition, pardon.
Il a coupé tout son effet. Là.
Comme quoi, on connaît bien les trentenaires.
Donc je laissais ton verre finir, en fait.
Oui, donc même dans ce qu'il y a de moderne, il consomme beaucoup de choses qui rappellent les musiques de ces années-là, quoi. Enfin.
Et puis même sans que ça ressemble, il consomme aussi la musique d'avant. Là, je pense évidemment au bal de l'Élysée-Montmartre pour les Parisiens. Hein, c'est tous les 15 jours et c'est un orchestre qui joue que des trucs des années 80 et ça fait des années que ça dure et ça remporte toujours un vif succès.
Oui, et comme tu disais, beaucoup plus simple, comme tu disais tout à l'heure, c'est le cas, les gens autour de moi, c'est le cas, sont très consommateurs de nostalgie.
Oui.
Alors que nostalgie, quand il n'y a pas si longtemps que ça,
c'était de l'accordéon.
C'était pas mon truc.
Non, c'est clair.
Mais tu sais que quand tu écoutes la radio qui s'appelle Nostalgie, effectivement, on a toujours vu ça comme un truc un peu ringard qui passait les chansons. Maintenant, quand tu écoutes Nostalgie, on te passe les premières chansons de Jean-Jacques Goldman.
Le samedi soir, il y a des spéciales disco, funky et tout, qui feraient pâlir d'envie les plus grands spécialistes de la musique. Ils sortent des trucs que personne ne connaît. Pour les trentenaires, c'est branché.
Il y a un branché trentenaire
musical. Ce qui s'est passé dans les boîtes de nuit, notamment où ça commençait dans les boîtes de nuit gays, où il y a Chantal Goya qui est revenue. Enfin, il y a toujours ce côté finalement nostalgique des années 80 et aussi
Patrick
d'avant.
Patrick Topalov,
les Patrick Juvet, tout ça.
Dorothée,
des types qui auraient dû disparaître, qu'on n'aurait jamais dû entendre parler.
Ils ont fait un remix de la menteuse.
Ils sont toujours là. Ils existent toujours et on entend toujours parler d'eux. C'est les trentenaires qui continuent à les faire.
Un retour, c'est toujours parce que finalement, il y a une cible commerciale.
Par contre, en parlant de vieux, il y a Corbier, il est toujours vivant et il fait de la très bonne musique.
Corbier, il est dans un petit théâtre.
Oui, et c'est super bien ce qu'il fait. Allez voir Corbier.
Bah, il a pris un coup de vieux, hein.
Oui, il a jamais été très jeune.
Il a au moins 50 ans.
T'as pas vu,
Non, il a 60 et quelques.
Donc le trentenaire consomme évidemment de la télévision. Consomme de l'internet, consomme du cinéma, peut-être moins de la littérature ou pas spécifiquement en tout cas.
Mais moi je sais pas, je veux pas parler pour tous les autres.
Non, mais il tape un peu partout, je dirais, ouais.
De la musique, on vient de le voir. Le trentenaire est un consommateur, le trentenaire est une cible probablement pour les vendeurs, donc. Les trentenaires sont-ils fashion? Les trentenaires, Ariane, peut-être veux-tu nous répondre sur le sujet?
C'est une grande question. Est-ce que les trentenaires sont plus fashion victimes que les autres, on va dire, décennies? C'était ça, hein, la question.
Bah oui, la question, c'est ça. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un phénomène un peu nouveau? Est-ce que les trentenaires sont pas les premiers à être franchement fashion victimes? Ou certains d'entre eux?
Je pense pas qu'ils soient plus fashion victimes que les autres décennies, on va dire. Je parlerai pas forcément de génération, mais décennies. Hein. On va parler de 20, 30, 40, 50.
On parle de tranches. Ouais.
Je pense que des fashion victimes, il y en a dans tous les créneaux d'âge à partir du moment où on propose quelque chose. Mais je pense que tu as dit un mot qui est intéressant, c'est qu'ils sont consommateurs.
Oui, voilà, tout simplement.
Ils sont consommateurs parce qu'effectivement, quand on a entre 30 et 40 ans, c'est là qu'on a, je voudrais pas dire son maximum de pouvoir d'achat, mais on n'est plus étudiant. Ouais.
C'est là où on dépense le plus.
Ouais. On n'est pas encore retraité.
C'est pas toujours en fonction du pouvoir d'achat.
On consomme. Donc on n'est pas forcément plus.
Et si on n'a pas encore d'enfants,
Et si on n'a pas encore d'enfants, en plus, voilà, on consomme pour soi.
Je dirais pas fashion victim. Je dirais que le 39, il a cet avantage-là, c'est qu'il est libre en fait de ses choix en fait.
Oui.
Il est pas. On lui impose rien du tout. Mais
il est orienté quand même.
Oui, mais il a besoin. C'est
on est justement.
Il consomme, il achète parce qu'il a envie
Flo, dans le débat qui est là, on est justement en train de s'interroger entre ce qu'on lui propose et ce qu'il prend.
Mais justement, si tu veux, le trentenaire, c'est, il va pas aller acheter telle fringue parce que c'est la mode de telle fringue, mais plutôt parce que cette fringue lui plaît.
Je suis pas persuadé.
Les fringues, c'est délicat parce que les fringues, on ne peut plus échapper à la. On peut plus être échappé à la fashion. Parce qu'on est obligé d'acheter ce qui se présente.
Oui, t'es obligé d'acheter ce qui se présente.
Et puis c'est hors du temps,
les
fringues.
Tout le monde,
toujours, quand t'as eu les moyens, tu commences par quoi? Par t'acheter des belles fringues quand t'as les moyens. Et ça a toujours été, ça sera toujours.
De la même manière. Enfin, je trouve qu'il y a un certain panel chez le
par contre, effectivement, si on doit comparer, on l'est beaucoup moins que les ados qui consomment, surtout en ville, quoi. Qui consomment, mais c'est hallucinant. Et qui sont vraiment. Je parle d'elles surtout, mais même les gars, ils portent quasiment un uniforme. Ils sont tous pareils. Nous, on a peut-être plus de choix parce qu'il y a aussi plus de caractères
diversité.
Différents. Voilà,
il y a plus de diversité. Il y a plus de choix pour les femmes. Mais enfin, quand tu regardes les femmes dans la rue, elles sont quand même toutes bien un peu.
Oui, mais les trentenaires, il y a quand même celle qui est déjà casée, qui est super classique, qui est déjà pourvue.
Je pense qu'il y a beaucoup plus de style chez les trentenaires que chez les jeunes de moins de 20 ans.
Mais je pense que pour parler de ça, il nous manque à nous tous autour de cette table une expérience qui nous ferait voir les choses différemment, c'est d'aller en boîte. Parce que nous, autour de cette table, il y a longtemps qu'on ne va plus en boîte. Et les trentenaires vont toujours en boîte.
À travers
tout
ce débat.
Et c'est peut-être là qu'on voit les nanas s'habiller.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais.
On forme
pour aller travailler, ils s'habillent comme tout le monde, comme toujours, et comme ils s'habilleront encore sûrement pendant très longtemps. La cravate, c'est quand tu as un certain poste, tu as la cravate, et ça restera encore longtemps.
Ce que tu dis est très juste. Quelle cravate tu portes?
Non, mais ça va même bien au-delà de ça, finalement. On fait partie d'un cercle de connaissances. On partage tout un certain nombre de choses tous ensemble. Il est évident que notre ressenti, il y a quelque chose de commun et c'est difficile évidemment de se projeter par rapport à peut-être d'autres groupes sociaux et tout ça qu'on connaît beaucoup moins.
Mais on parle de nous, quoique on parle de nous.
On parle de nous.
Ouais.
Une émission qui devrait servir principalement aux sociologues.
Oui, mais Béa, elle a raison, elle est allée en boîte. Moi, je prends le métro. Et ce que je vois qui est dans 4-30 ans dans le métro, c'est quand même assez.
On parle aussi de ce qu'on voit.
Le 30 effectivement, c'est divers quand même.
La pouffe de 30 ans qui sort s'habille.
Oui,
très fashion victime.
La pouffe de 30 ans.
D'autre part, quand elle sort, elle s'habille en plus.
La pouffe de 30 ans qui rentre se déshabille.
Oui, alors qu'avant, c'est moins sûr.
D'autre part, quand on a un certain âge, c'est-à-dire jusqu'à une vingtaine d'années, on a tendance à essayer de se vieillir. Quand on a 30 ans, on essaye de se rajeunir quand même un maximum.
On commence.
Avec plus ou moins de réussite.
Et il faut bien le reconnaître.
On commence. Déjà. Donc effectivement, on parlait de consommation tout à l'heure.
On parle d'âge charnière. Là, donc.
On parlait de consommation. Donc on est acharné sur les fringues qui font paraître plus jeunes. Sur, on commence à voir des pubs à la télé en disant « le lifting, c'est pas encore pour moi », etc. Mais on fait consommer des crèmes.
Le Q10.
Le très important Q10. Le Q10, il existe chez tout le monde, hein, en plus, chez Garnier, chez
Ils Ikea, en mettent partout, même pour les pieds.
Quoi
voilà.
Q10,
les enzymes Q10. C'est pour faire
avant, c'était les liposomes, maintenant, c'est les acides de Free, maintenant, c'est le Q10.
Les disulfactifs et compagnie. Là,
voilà. Le Q10, c'est comme la bite de 30, c'est une unité de mesure.
Ah ben, comme ça, j'aurais appris quelque chose.
Ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, à 30 ans, on commence à essayer de se rajeunir. C'est l'âge où on... Où effectivement,
c'est l'âge des premières rides.
Voilà, où on commence à essayer de se rajeunir. Et tout à l'heure, on parlait, donc là, je saute un peu du coq à l'âne, mais Béa parlait de cette espèce de nostalgie, de ces grands enfants.
Tu fais bien en ces périodes de grippe aviaire.
Il y a eu, à une époque, je crois que c'était à partir du milieu des années 90 et la fin des années 90, où il y a un terme qui a été inventé, on n'était pas à un anglicisme près, où on parlait des quidulescents. Des quidulescents et des adolescents. Donc c'est de vrai. Adultes
oui,
et adolescents.
Les adolescents. Oui.
Donc les quidulescents, c'est un peu plus. Oui, non, c'est pas tout à fait.
C'est plus lointain, je vois pas.
C'est
plus
non,
les adolescents.
Mais
ouais,
des adolescents,
c'est
c'est-à-dire ces adultes qui sont restés adolescents.
Ah oui, ouais. Ben, est-ce que ça illustre
On parlait tout à l'heure aussi des compilations, des choses
complètement.
Comme ça. Mais on fait également, on organise à certains endroits des soirées Casimir.
Ouais, le Bobby Boulga.
On parle
oui,
toute la soirée.
C'est dont je parlais tout à l'heure.
Voilà,
ce
exactement.
Je parlais
c'est
tout à l'heure.
De la nostalgie, la nostalgie des, finalement des prémices de la télé. Ça rejoint aussi ce que tu as dit.
On est des enfants de la télé.
On est des enfants de la télé, c'est-à-dire que les premières émissions, nos parents ont connu l'arrêt des programmes à 10h. Pour nous, il y avait une deuxième partie de soirée, il y avait la partie pour les enfants, etc. Enfin, il y avait vraiment des programmes un peu plus ciblés que le premier journal télé, puis après c'était terminé. Et on a la nostalgie de cette période et on joue énormément là-dessus. C'est valable, effectivement, on va dire, pour les citadins. C'est
non,
surtout l'expérience qu'on a.
Même,
c'est surtout l'expérience
parce que moi,
qu'on
je suis
a.
Quand même resté beaucoup en province et à la campagne. Non, ça marche partout. Mm. C'est énorme.
Enfin, le coup de la soirée Casimir ou du Capitaine Flamme.
Voilà,
donc,
justement, ça vous affole
donc,
pas un peu.
Donc, on en arrive à la fin du débat. Sur ces quelques constatations qu'on a pu faire, modestes. Donc,
on parlait de Jen Jones, excuse-moi, mais Tanguy,
qui a fait un score mirobolant.
Ah bon, je
Tanguy, ça a fait un carton quand
écoute,
il est repassé.
Là. C'est les parents
ah bah tiens,
aimé,
c'était
en fait,
peut-être un film qui illustrera
ah
bien.
Mais magnifique.
Non, c'est pas vrai, c'est un film qui a plu beaucoup plus aux parents parce que ma mère m'a dit qu'elle est allée accompagnée d'un groupe de vieilles et en fait les vieux se sont
très
beaucoup
bien.
Plus marrés que les jeunes.
Très bien. Donc on a noté au passage que donc la trentenaire était particulièrement une génération télé, une génération aussi adolescente, comme tu disais.
Ouais.
Moi, juste quelques mots pour conclure. Les générations précédentes ont cru à beaucoup de choses. Il y en a qui ont cru au gaullisme, il y en a qui ont cru au socialisme, après ils ont cru à l'alternance. Nous, aujourd'hui, c'est à nous, c'est notre moment d'être venus, et puis on a un peu l'impression qu'on ne sait pas du tout exactement ce qui va nous être proposé. On est une génération qui évidemment respecte les démocraties, la République, toutes ces choses-là. Mais on est aussi, je pense, et j'en reviens à ce que je disais au début, une génération inquiète, probablement de savoir ce qui va nous arriver par la suite. Toutefois, on est aussi une génération qui est, ma foi, bien dans ses pantoufles.
Voilà. Juste un mot, une génération un peu blasée.
Nostalgique,
blasé,
on l'a
beaucoup
entendu
vu.
Eh
ben
ce
nous,
soir.
Nous,
et
nous retiendrons, je pense, ces quelques mots. Génération nostalgique,
on a
blasée et adolescente.
On a été écrasé par nos parents. Bonjour, maman.
Ok. Foutu 68
heures. Est-ce que nos parents ont été écrasés par leurs parents?
Non, parce que eux, ils les ont renversés.
Oui, à leur façon, oui.
Voilà.
Mais c'est peut-être pas l'objet du débat de ce soir, mais je pense que les enfants, les enfants de ceux qui ont connu la guerre, ils ont fait 68. Tu vois, c'est fort. Je sais pas.
Je suis d'accord avec toi.
Ok.
Voilà.
Merci beaucoup, Cré. Et un tonnerre d'applaudissements pour nous tous.
Vive les trentenaires.
Voilà. Et pour finir le débat, on va passer une petite chanson. On a parlé de « À 30 ans, on commence à vieillir ». Et c'est une petite chanson qui parle de ça. Donc, je vous laisse écouter. Hein. Donc, hop, c'est parti. Je m'en souviens, c'était hier. J'avais les cheveux tout vus et loin. Quand dans le miroir, ce matin.
matin, j'ai constaté, oh quelle misère, j'ai des cheveux blancs qui me dévisagent, des poils chenus sur le menton, la triste mine des vieux grisons. Comment veux-tu qu'on m'envisage? Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis, à pas feutré s'approche du lit, son matériel sort, il m'épie. Je dors tranquille, sommeil profond, pas un mouvement, mais pile cortex, et ce n'est pas tout, ta coutipesse me refait les temps et la toison. J'ai mis un piège dedans ma chambre, un fil tendu devant la porte pour attraper ce cloporte qui m'insupporte. Et puis me chante, j'ai veillé autant que j'ai pu, lumière éteinte, silence obtus, j'ai dû merder, je l'ai pas vu, car le silence m'a détendu. Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis. Pas feutré, s'approche du lit, son matériel sort, il m'épie. Je dors tranquille, sommeil profond, pas un mouvement, mais pile cortex. Et ce n'est pas tout, ta coutipex me refait les temps et la toison. Ne sachant plus vraiment que faire, je prends mon pied et ma bonne foi pour aller au commissariat, trouver solution à cette affaire. J'ai poireauté dans la petite salle, j'ai raconté la vérité, le commissaire m'a rayonné de mon histoire. Comment pourrais-je punir ce fumier? Eh bien, je me suis agenouillé. Et Dieu le Père, j'ai prié. Avec ferveur, j'ai vénéré. Sur mon prie-Dieu, j'ai eu des crampes. Ma foi naissante s'est fait la belle. Mon montant l'air est naturel. Y a rien à faire pour qu'il décampe. Y a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis, à pas feutré s'approche du lit, son matériel sort, il m'épie. Je dors tranquille, sommeil profond, pas un mouvement. Et puis cortex, et ce n'est pas tout, ta coutipex me refait les temps et la toison. Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis, à pas feutré s'approche du lit, son matériel sort, il m'épie. Je dors tranquille, sommeil profond, pas un mouvement, mais pile cortex. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas ta coutipesse, me refait les temps et la toison.
Voilà.
C'était bien.
Ça c'est fait. À noter, parole de Numa, comme d'hab. Bravo.
Bravo, Nicolas.
De rien.
Musique et interprétation de ton verre, moi-même.
Bravo, ton verre.
Les décors sont de Donald Cardwell.
Voilà. Et les costumes de Roger Jiquel. Oui, c'est recyclé.
Bon.
Voilà, ça fait rigoler.
Et la chorégraphie, Gad Elmaleh, non, Gad Elwali, c'est ça, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'ai pas la télé, moi. Kamel Wally.
Kamel Wally. Ouais.
Bah, c'est lui. Bah,
ça vous a plu?
Et c'est qui ça?
C'est le mec qui a fait le Roi Sommeil.
On t'entend plus.
Je sais pas qui
c'est. T'as pas un stop sur ton micro?
Je connais le Roi Sommeil, Angoulême, il fabrique
voilà.
Une grosse daube.
Bah, c'est ton mec qui a écrit les paroles, hein. tu t'arranges avec lui.
Non, on parlait de Kamel Wally parce que créer ton trentenaire, il connaît pas
Kamel.
Ouais.
Donc voilà, c'était normalement une émission qui avait une chanson qui avait été prévue pour les vieux avec les cheveux gris, mais on est un peu en retard.
Ça va bien pour les trentenaires aussi.
Ça marche beaucoup mieux, ça marche bien,
là je les ai bien moi.
Oui.
On sait que tu l'as écrit
en te regardant dans la glace.
Qui sait qu'il y a des cheveux blancs là?
Ah,
du mal,
il a
moi aussi.
Il paraît que j'en ai un, mais c'est un mythe. Hein, y a que... Moi, j'y crois pas du tout.
De quoi?
Et apparemment, tu vis mal en plus. Hein.
Ah ouais.
Faut l'enlever.
Oui, enfonce-le.
Oui, ça a l'air de te. Franchement, oh là là. Tu vas réussir à faire ta chronique, c'est bon?
Les
chroniques, il va falloir un peu. Un petit peu avoiner si
on
veut faire une heure. Mais je pense qu'on va pas faire une heure, mais il va falloir avoiner quand même pour pas qu'on fasse beaucoup plus.
Bah allons-y alors.
Oui.
Commençons.
Si j'arrive à trouver,
tu combles.
On va. Oui, je remplis l'espace sonore.
Je croyais au contraire qu'il fallait.
Et nous allons passer maintenant ce soir, ouais, tous ensemble aux chroniquettes.
T'as pas d'écho?
Tintin, Flo.
Ouais, et ben moi.
T'as beaucoup parlé, je sais pas si on va pas passer directement.
Popopote, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai pas pu en placer une.
Non. Tu te fous de la gueule de qui?
Dépêche-toi.
La prochaine fois, on va te montrer ce que c'est.
Il y a déjà 2 minutes de passé.
C'est le culot des trentenaires, ça.
Ouais, voilà. D'abord, les trentenaires ne manquent pas de culot.
Donc,
moi, je vais vous parler d'un film qui est pas un film de trentenaire.
T'as 3 minutes.
Qui, à première vue, Ariane a lu, et que moi, j'ai envie de lire après avoir vu le film. Ça s'appelle Orgueil et préjugés. Je crois que c'est sorti il y a environ un mois, un truc comme ça. Ça a pas, à première vue, pas fait énormément de bruit. Moi, j'ai vu la bande-annonce et puis j'ai entendu parler un anglais parfait et je me suis dit, oh, un film qui parle roast beef avec le bon vieil accent.
Ce sont les livres de...
Oh,
son nom m'échappe.
Bon, d'accord.
Voilà. Je vais retrouver.
Donc... T'inquiète, elle a travaillé son sujet.
À mort. Ouais, ouais, donc c'est vraiment... Moi, j'y suis allée au départ parce que c'était... Enfin, y a juste pour le plaisir d'entendre l'accent. Je m'étais dit, même si le film est naze...
Il y a qui
moins,
comme acteur?
Je sais pas, mais l'actrice, elle est bonne.
Ouais, c'est pas très connu comme acteur. Ah, si, les vieux acteurs, ils sont tous super connus. C'est pour ça qu'on n'a pas un seul nom en tête. Mais non, c'est du très beau film avec des images extraordinaires. Ça se passe dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, au milieu de la noblesse, avec toute une espèce de rivalité. Parce qu'ils sont tous nobles, soit, mais il y a noble et noble quand même, comme vous comprendrez. Il y a le noble qui habite dans le grand château et le noble qui a à peine de quoi avoir ses domestiques.
C'est un thème récurrent chez Jane Austen, donc. J'ai repris son nom.
Et donc la famille que l'on suit a 5 filles et qu'il est urgent de caser puisque comme elles ne sont que 5 filles, personne ne gardera le château, donc toute la fortune va disparaître, etc. Donc il faut caser tout le monde. Et débarquent les voisins avec le jeune riche futur héritier, enfin bref, et donc il est question de caser tout le monde. Mais bon, voilà, et cette histoire de caste, si on peut dire, et puis de préjugés, d'où le titre du reste. Et en fait, ça donne lieu à des décors extraordinaires, des scènes de bal. Vraiment, on a l'impression d'y être. En plus, c'est tourné de manière très très intelligente. Les images sont super belles et avec un esprit piquant, enfin vraiment très vif dans les dialogues. C'est vraiment super super agréable. Je sais pas ce que vaut le bouquin. J'ai presque peur que le bouquin soit pas à la hauteur de ce que j'ai vu comme
film.
Les
bouquins de Jane Austen sont très très bien écrits. C'est le genre de bouquin où
en anglais ou en français surtout?
Alors moi je les ai lus qu'en français,
ouais.
Mais c'est des bouquins qui doivent faire entre 300 et 500 pages. Il se passe rien. Mmh. Il se passe absolument rien et pourtant c'est palpitant. Parce qu'il y a des descriptions absolument somptueuses. Et il y a le premier bouquin qui a été porté à l'écran, c'est Raison et Sentiments.
Ah!
qui est un film qui a été très bien fait. Malheureusement, je ne me souviens plus du réalisateur, donc je ne sais pas qui a réalisé Orgueil et Préjugés.
Tu demandes ça à la personne qui a regardé 5 secondes.
Elle a travaillé sa chronique. Elle a travaillé.
Le film célibataire, juste c'est l'histoire de bien être sûr que célibataire c'est un film pour être
en clair, tu sais
sentiments,
pas qui
c'est aussi des histoires de mariage.
Bon, oui, oui, Orgueil
et Préjugés. Moi, ce qui m'a bien plu dedans, c'était les personnages qui étaient vraiment la richesse des personnages.
Des caractères très, vachement
très, très, très fouillés. Toutes les interprétations, c'était vraiment magnifique.
C'était
vraiment
c'était,
très, très beau.
Très
donc,
solide, ouais.
Avec une qualité, ce que tu disais tout à l'heure, une qualité d'image vraiment super, super chouette. Ah, ouais. Il y a des choix de réalisation, notamment, comme tu disais, les balles. Donc, la fête, cette fête de village, vraiment. On y est et tu t'amuses alors que régulièrement les scènes de balles dans les films
tu les regardes
en spectateur et tu te fais chier quoi, t'as pas envie d'y être là t'avais envie d'y aller.
Mais c'est même pas envie d'y aller. En fait, on est au milieu de la pièce pendant tout le film. En fait, c'est vraiment très poignant. Nous on l'a vu le dimanche matin, on a vu
et l'actrice est très très jolie.
Et l'acteur est très beau aussi. Et en fait, on a vécu dessus toute la journée. Et la conclusion après le film avec Numa, c'était « Ah, si tous les romans d'amour pouvaient ressembler à ça, ça serait Barbara Cartland à la maison. »
Merci pour ta conclusion.
Merci.
Magnifique. Un tonnerre d'applaudissements. Mais pas trop longtemps. Nous allons passer maintenant, comme je le dis toujours, sur Béa.
C'est dégueulasse.
Ah non.
Qui va nous parler des émissions de reality show succinctement.
Voilà, les dernières petites actualités au niveau de la télé-réalité. La télé-réalité, comme on la connaît, hein, c'est vrai que le terme n'est pas juste, mais ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà plus de 5 ans que la télé-réalité a débarqué en France avec Love Story. Et on aurait pu croire, beaucoup ont dit que ça allait s'essouffler très vite, et ben non, c'est toujours là, avec des producteurs qui ne manquent pas d'imagination, enfin, à vous d'apprécier.
Surtout alors par exemple, producteurs étrangers d'ailleurs.
Ouais, enfin bon, il y a quand même, j'aurais dû noter son nom, la productrice qui en a amené plein en France, notamment mon incroyable fiancé l'année dernière qui a fait un succès d'enfer apparemment. Donc il y a quand même divers... approches de la télé-réalité. TF1, c'est plus mettre des candidats dans une situation extraordinaire. On les fait chanter dans un château, on les fait partir à l'aventure sur une île déserte. C'est plus dans la situation.
N'est-ce pas vrai?
On les fait.
Il est en train de
lire son journal.
Il lit son journal.
Il n'a rien à péter, c'est extraordinaire.
Il n'a pas la télé.
Ouais, moi, je vous avoue avec les émissions de télé-réalité.
Oui, mais même
moi, j'ai
alors,
fini mon livre.
Dont on a entendu parler quand même.
Ou alors, voilà, on met des people pour les transformer en fermiers ou en militaires. Et là, dernièrement, il fallait trouver un univers particulier, c'est le Moyen-Âge. Ça s'appelle le Royaume. Et pour la première fois, TF1 essuie un échec cuisant.
Ils annulent, oui, j'ai vu.
Et apparemment, voilà, ils vont arrêter la diffusion. Alors, l'arrêter, je pense pas. Et à mon avis, ils vont la décaler parce que c'est en prime le samedi soir. Ils vont plutôt la décaler. Ça a été tourné. Le candidat, quand même, qui va garder le trône. Alors, c'est une histoire, c'est à pisser de rire.
Il y a des contrats comme ça. En fait, ils disent si ça marche, on la passe jusqu'au bout. Sinon, on va pas jusqu'au bout et vous gagnez pas.
Oh là là, mais
si
ça a été filmé.
Passe pas, oui, mais il y a quelqu'un qui a gagné, j'imagine. J'ai pas vu.
Soyez sympa
mais
pour
si
le
ça,
candidat,
toute l'émission
allumez
passe
vos télés.
Pas, la personne gagne pas.
Oh la vache. Ah oui, non, ça c'est dur
donc,
ça.
C'est sous réserve.
Alors, pourtant, c'était très rigolo hein, parce qu'on les foutait dans le Moyen-Âge et donc il y en avait qui étaient seigneurs.
Et alors, dans le Prime, les mecs qui ont fait l'émission, ils sont là sur leur coussin. Là. En général, ils sont sur des plots.
Non,
et,
c'est pas ce genre-là. C'est un épisode où ils ne sont filmés que dans le contexte du château avec les jeux et tout ça.
Un peu comme Koh-Lanta en fait.
Voilà, exactement. Il n'y
a
pas d'émission plateau.
Avec des types décapités à coups de
grosses épées. Non, il y a des combats d'épées. Et des lancers de catapultes, bon, à la limite, c'était assez rigolo, mais c'est plus de la mise en scène, et c'est ça qui est assez pissant quand même. Alors que par exemple, la 6, qui est la deuxième chaîne non câble, non cryptée de la télévision française, eux, ils ont un autre créneau dans la télé-réalité, c'est la télé qui vient au secours des gens, qui qui va les aider à s'habiller, à faire le ménage, alors ça c'est assez hallucinant, à élever leurs enfants, voire même à lutter contre leur chien, parce que le chien est...
S'habiller, enfin les enfants, le chien, etc., ça j'en avais entendu parler, mais faire le ménage, ça je savais pas.
Ah c'est grave, hein. J'en ai vu une, grave. Putain c'est grave. On savait qu'il y avait des gens crânes, mais là on nous le montre. C'est hallucinant. Donc, mais la 6, avec tout ça, a raté son truc. Ils sont quand même plus habitués au bide. Une saison de Super Nanny qui élève les enfants des autres, ça va bien. Deux saisons, ça marche pas. Sauf là, ils ont un succès avec Pékin Express. C'est le dimanche en fin d'après-midi où c'est des candidats
comment
en binôme. Pékin Express.
Mais non, mais on peut pas parce que Pékin, il a été viré du dictionnaire.
La ville, Pékin.
Oui, ben ah, ça marche alors. Parce qu'un Pékin, on peut pas maintenant.
Ouais, mais c'est Pékin ville. La ville, donc ce sont
c'est Pékin,
des,
la ville.
Ce sont
s'ils
des
font
candidats.
Paris, Pékin, on stoppe.
Voilà, on stoppe avec un euro par jour. Les candidats sont épouvantables. C'est des connards qui vont gagner. Enfin bon, c'est.
Mais alors, qui est vraiment d'utilité publique parce que Pékin, c'est des c'est... trucs que jamais on ne soupçonnerait quand on n'a pas la télé, quoi.
Ah mais
c'est
oui. Enregistré si tu veux. Il y a des trucs hallucinants. Mais alors justement, en France, ça reste assez soft. Donc c'est TF1, M6 qui se partagent le marché de la télé-réalité.
T'as pas vu le truc sur les bonnes manières?
Non, j'ai peut-être gonflé. Toi, t'engueules les gens quand il coupe BA et puis finalement c'est
oui,
toi
voilà,
qui la coupe
et toi,
aussi.
Tu coupes.
Oui, mais c'est moi qui ai les boutons.
Ouais, mais moi je peux
parce que j'ai su rester jeune, j'ai toujours des boutons.
Ah, toi aussi.
Non, t'as pas vu celui sur les bonnes manières?
Non,
ah, bah,
ça a été un flop terrible aussi apparemment. Non, certainement mieux à faire. Je n'ai pas tout regardé. Par contre, pendant mes nuits d'insomnie, j'ai pu regarder un peu le câble et c'est là qu'on se rend compte qu'en France, ça reste très gentillet, très crétin, mais très gentillet. Et franchement, ça fait de mal à personne. Parce que alors là, les anglo-saxons, eux, ils sont très forts. Les anglais ou les américains. Et donc, sur le câble, j'ai pu voir, par exemple, Relooking Extreme. Ça, c'est balèze. Ils prennent des candidats, bah, moches, de surcroît, pour faire un ravalement de façade total. C'est-à-dire, ils vont refaire le nez, les yeux, les joues, liposuction, machin et tout. Mais là, à la limite, ça s'apparente au documentaire. Parce qu'il y en a un qui est sous le même créneau, c'est Miss One, où là, il y a en plus la mise en scène. Et alors là, franchement, c'est balèze.
Ils filment les opérations ou pas?
Non, on voit les résultats avant, après, les commentaires des gens, l'interview de la personne, des médecins et tout ça. Mais c'est dans la conception. En plus, on va montrer ça à des jeunes. L'autre jour, il y avait une instite. Enfin, celui que j'ai vu, c'était une jeune instite américaine qui ne voulait pas parler du culte de la beauté, mais n'empêche qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle s'est présentée devant sa classe. Les gamins avaient 8 ans. Ah ouais, elle est belle maintenant. Enfin bon, grave. Mais j'ai trouvé largement pire, et c'est AB1 qui le diffuse. J'ai pas vraiment regardé, je n'ai vu que des extraits. Balèze, c'est la nouvelle version Bachelor. C'est qui veut épouser mon père ? C'est trois jeunes filles qui
c'est
veulent...
C'est passé l'année dernière, ça ?
Non, bah, c'est passé cette année à B1, je crois qu'il y a encore un épisode.
J'en ai croisé en zappant, peut-être sur la TNT. Non, c'est pas un film, j'ai croisé
là,
ça.
Là, je trouve le contexte, le truc... Mais épouvantable. C'est donc trois jeunes filles qui veulent trouver une gonzesse à leur père. Donc le père, c'est évidemment, il est pas trop mal, un riche, un mec riche, d'une quarantaine d'années, bodybuildé, qui fréquente
donc
les
en fait,
esthétiques. Et donc les trois nénettes qui sont magnifiques aussi, siliconées, blondasses, machin et tout, qui vont sélectionner des gonzesses pour leur père, qui lui va choisir. Donc il va bézouiller un petit peu partout pour choisir une gonzesse. C'est quand même balèze. Mais alors, je pense que le pire, le summum, mais c'est sur une chaîne payante du câble, c'est Ping TV qui le diffuse, c'est le fameux Starac porno, c'est-à-dire...
Voilà que ça devient intéressant.
Ça fait longtemps que ça existe, ça.
Oui, mais il le diffuse. Parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais effectivement, là, c'est une chaîne payante.
C'est une émission spéciale où ils diffusent les scènes interdites.
Je sais pas ce
que moi, sur Internet, je suis tombé des fois par hasard sur ce genre de choses.
Par hasard.
Par hasard.
Non, mais comme quoi,
évidemment.
Les anglo-saxons vont beaucoup plus loin.
En faisant des recherches pour l'émission, parce que sinon, bah, évidemment.
Sinon, il y a aussi, mais pour l'instant, c'est pas diffusé en France, les Pays-Bas. À la limite, pourquoi pas? Si ça peut avoir une petit avantage pédagogique, c'est les Pays-Bas qui font ça, ils filment une cure de désintox. Et alors là, il y a deux versions. La version soft le matin pour toute la famille et la version plus hard le soir où là, on voit vraiment leur galère. C'est des vrais toxicos qui sont dans une vraie cure de désintox. Ils passent par toutes les couleurs. Il faut avoir le cœur bien accroché quand tu regardes ça le soir. Parce que en fait, tu passes ton temps à regarder les mecs vomir.
Mais assez balèze quand même. Les Pays-Bas,
les Pays-Bas sont très forts.
Ils sont trash, largement autant que les Japonais.
Il y en a eu une l'année dernière où.
Le mec qui teste tous les produits.
Il testait les drogues, le sexe, l'alcool.
Donc, alors, je me suis fait sodomiser. Bon, moi j'aime pas trop ça.
Voilà, mais... c'était ça. Donc, la France,
avec
ça reste super gentil.
Avec deux cachetons d'ecstasy, ça passe mieux. Enfin voilà, c'était un peu dans ce genre.
Ah non, mais les Hollandais, ouais, ils font fort.
Il y a des mecs qui ont un bon boulot.
Il était content quand il est sorti de l'expérience avec trois nénettes. Là, c'était mieux que la sodomie, ouais. Ça lui avait plus plu, apparemment.
Je comprends pas.
Bah non, faut être ouvert.
Attends,
quand même.
C'est subir la sodomie qui lui avait pas plu.
Ouais, pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit?
Bah, je sais pas, la sodomie en général.
On sait pas, il y a actif et passif.
C'était
on va pas rentrer dans les détails.
Ouais,
on peut parler d'électricité, d'électronique, de puissance.
Ouais, mais après, ça dépend de comment c'est fait aussi.
Voilà, bah, merci pour ta conclusion, Flo.
C'est rien, avec plaisir.
Bravo Béa, un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, nous allons passer à Cré, et non pas sur Cré.
Ouf. Le temps. Voilà.
On est donc, tous d'accord.
C'est bon, t'as
bon.
Merci, un tonnerre d'applaudissements pour toi.
Bien sûr.
J'ai quand même quelques petites choses
à dire. Donc, je voulais vous parler d'un journal qui s'appelle La Décroissance, dont le sous-titre est Le journal de la joie de vivre. Alors ça, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Donc, c'est un bimestriel qui paraît donc...
Tout démestriel.
Non, deux fois par
mestriel. Deux fois par mestriel. Tous les deux mois, pardon. Et donc, à 2 euros. Alors, la décroissance, pourquoi? Parce que c'est un journal qui prône, c'est un journal qui est très engagé politiquement, et qui donc prône avant toute chose la décroissance.
C'est un journal de droite.
Pas vraiment. c'est un refus.
Tu parles des conséquences.
C'est
de
un
droite.
vous allez me laisser parler. Un journal qui refuse. L'état de fait comme quoi la croissance est devenue l'objectif prioritaire de toute politique.
Il n'est pas orienté ton journal parce qu'à un moment
ça m'intéresse beaucoup.
Derrière. J'ai cru voir Libé quelque part sur une petite page dans un petit angle. Non, ça fait partie d'un groupe.
Il n'y a pas marqué Libération, mais c'est un pastiche. Il y a marqué L'aberration.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est un journal très engagé, excessif, outrancieux. Il va beaucoup trop loin, sans doute. Mais par contre, il a, à mon sens, l'avantage de soulever beaucoup de choses qui sont vraies, des choses que je partage. De façon générale, de toute façon, je ne pense, moi aussi, qu'on ne peut pas... s'attacher à la sainte croissance. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être plus intéressantes que toujours vouloir tout penser par la croissance.
C'est pas possible.
Bah, c'est mon opinion, je m'engage là-dessus. Et donc ce journal défend ça. Comme je le disais, il est très extrémiste.
Il faut faire la guerre de temps en temps.
Il a aussi,
pour réguler tout ça.
Il a aussi l'avantage de présenter des petites choses toutes bêtes, donner des arguments, des exemples simples. Dans celui du mois de février, vous trouverez par exemple un article assez acerbe sur des produits de grande surface, je ne citerai pas laquelle, qui vendent les haricots verts par petits fagots. Voilà, vous pouvez acheter des petites doses d'haricots verts par petits fagots dans une boîte,
c'est
fabriqué en Chine, c'est formidable, sauf que vous oubliez que tout simplement, au marché du coin, ou même en grande surface, si vraiment vous tenez à aller en grande surface, vous allez trouver des haricots verts au détail, qui auront exactement la même saveur, il n'y a pas besoin qu'ils soient en fagots pour être meilleurs.
Il faut faire les fagots, c'est chiant.
Mais surtout que le problème qui souligne, c'est pas tellement le bien-être des Chinois. C'est pas le bien-être des petits Chinois qui dénoncent. Ce qu'ils dénoncent, c'est que ça a un coût énorme énergétique de déplacer ces haricots de Chine en France. Il n'y a pas besoin, on en fabrique en France.
Si, je crois que c'est toléré.
Oui, oui, malgré
la réforme la liaison moche, on peut
et que au-delà du coût unitaire de l'objet, il faut penser à tout ce que ça peut coûter en termes de d'énergie à produire ces choses-là, puisque ça a une vocation très écologique aussi, ce journal.
C'est un journal plutôt altermondialiste.
C'est ce que j'allais dire, c'est extrême gauche.
C'est altermondialiste.
Non, c'est la même. Altermondialiste, c'est pas forcément extrême gauche.
Pas du tout. C'est un autre modèle de société. C'est un autre modèle de société démocratique.
C'est la même mise en page que dans Charlie Hebdo, d'après ce que je vois. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait Lefred Touron qui aussi dessine dans Charlie.
Voilà, c'est assez proche de Charlie Hebdo.
Visiblement, les dessinateurs, c'est les mêmes.
Donc ceux qui aiment Charlie Hebdo, probablement y retrouveront certaines choses.
De loin, ça ressemble. C'est clair. Le format et tout ça, ah ouais.
Juste pour conclure, chaque mois, ils élisent un éco-tartuffe. Donc, c'est la personnalité qui est la plus ridicule dans son... je retrouve pas la page, tant pis, je la connais.
L'éco-tartuffe
du mois de février, c'est...
Vas-y, Lima, vérifie la page et vérifie qu'ils connaissent bien.
C'est Daniel Cohn-Bendit, et finalement ça me fait bien plaisir parce que Daniel Cohn-Bendit, je le salue pour son combat des années 68. Autant aujourd'hui, il méritait bien un titre d'éco-tartuffe parce que dans son action politique, je le trouve en complet décalage avec ses idées initiales et surtout
sa façon de faire. Il est en complet décalage avec des idées tout court.
Voilà. Voilà, c'est encore la meilleure façon de dire, je trouvais pas les mots. Voilà, donc à l'occasion, ne l'achetez qu'une fois, s'il faut ne l'acheter qu'une fois, mais je vous conseille vraiment de faire au moins l'expérience de le lire au moins une
Vas-y,
fois.
Vas-y, répète-nous.
Il s'appelle La décroissance, c'est édité par Casseur de Pub.
Trouve...
Je pense que Casseur de Pub, à certains qui ont pas mal voyagé dans le métro parisien ces deux dernières années, ils verront à peu près ce que ça veut dire.
Et on le trouve partout.
Et on le trouve, écoute, à Montreuil, facilement. Tu le trouveras en kiosque.
Il est tiré à 45
000 exemplaires. Montreuil, c'est une commune communiste.
J'ai vu la liste de diffusion, tu le trouves dans toute la France. Tu le trouves dans toute la France. Alors, les points de vente, je ne sais pas, mais.
Je viens de lire l'ours et on peut le.
2 euros, faites l'expérience, 2 euros. Il y a vraiment des idées intéressantes. J'ai pas regardé.
Ah.
Ok. Merci beaucoup.
C'est trentenaire quand même comme journal.
Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements.
Tu rajoutes un tonnerre.
Parce que. Et bien maintenant, je vais passer sur Ariane, mais moi seulement. Pour
s'en
des
va.
Raisons.
Ah ouais, alors tout le monde peut passer sur Béa, mais. Ouais, dis donc, oh. Mais pour moi, il n'y a que toi. Enfin, si, pour moi, il n'y a que toi, mais. Ouais,
t'es bien gentil,
je te trouve un peu cavalier avec
Béa
quand
même.
Quoi,
ouais.
Attention, ouais, on n'a pas parlé des pratiques sexuelles des trentenaires.
Oh non, mais on est une émission.
Soft.
Sérieuse, soft, quand même.
Donc tu vas nous parler de.
Ouais,
ça aura
un coup de rouge. Exactement. Alors Saint-Nicolas, effectivement, chez tout le monde, ça évoque la fête du 6 décembre, le chocolat, etc.,
les cadeaux
dans les
dans le nord,
dans l'est de la France et dans les pays de l'est.
Un magasin de spiritueux.
Mais Saint-Nicolas,
surtout
sans le saint, il est pas saint. Saint-Nicolas, c'est également, y a peu de gens qui le savent, est fêté comme la Sainte Catherine. Tout le monde connaît la Sainte Catherine. C'est-à-dire qu'on coiffe Sainte-Catherine quand on est une femme et qu'on a 25 ans. Eh bien, quand on est un homme et qu'on a 30 ans...
C'était 26.
C'est Saint-Nicolas.
Il va falloir reculer l'âge maintenant.
Ouais.
C'est vrai, Saint-Nicolas fait les célibataires trentenaires de...
Les hommes. C'est pour les hommes et c'est les
trentenaires. C'est rigolo.
Et donc, effectivement...
Faites pas des crucifix aigus dans vos micros, ça va tout faire
les
sauter
hommes...
les machines.
On
les
constate déjà que la parité... Ah, on n'arrête pas de
vous
parler
avez compris.
De parité.
D'accord.
On n'arrête pas de parler de parité, mais les hommes ont quand même droit à 50+.
T'as raison.
Et Saint-Nicolas, donc sur le même principe que Sainte-Catherine, en fait, eh ben, ce sont des camarades bien intentionnés qui viennent chercher le trentenaire toujours pas marié. Et alors, autant on peut trouver que les femmes ont une tête ridicule avec leur chapeau jaune et vert, autant pour Saint-Nicolas, comme en plus ça se passe en hiver, il faut quand même habiller les hommes chaudement. Donc on leur met une paire de braies, une magnifique blouse ou un saillon.
Précise la paire de braies.
La paire de braies, c'est-à-dire un pantalon un peu large à l'entrejambe, une paire de sabots, si c'est bien fait, avec de la paille dedans, un bonnet de nuit et un panier avec des poireaux à l'intérieur. Et on trimballe le jeune homme un peu
le
partout.
Poireau.
Pourquoi les poireaux?
Parce que la poire aille.
Dans 10 minutes, la tarte au poireau.
Et tu te décroches quoi, les carottes aussi?
Alors peut-être, effectivement, je me suis pas suffisamment penchée sur la question. Effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des recherches et je vous raconte simplement de ma propre expérience et de ce que j'en sais. Mais du coup, on trimballe les jeunes gens avec leurs bonnets de nuit, leurs sabots et leurs paniers avec leurs poireaux. C'est la Saint-Nicolas, on et a 30 ans et on n'est pas mariés. Mais effectivement, ça fait, hein. Ça fait peut-être moins d'effet.
On peut aller boire un coup ?
Oui, mais en général, c'est ce qu'on fait. Hein.
Ah, bah oui, mais tu l'avais pas précisé.
C'est ce qu'on
maintenant,
fait.
Maintenant, ça fait envie.
On fait le tour des bars. Et effectivement, c'est quand même beaucoup moins connu que la Sainte-Catherine. C'est et moi, je trouve ça pas juste.
Ouais, bah, la fin du tour des bars,
c'est le 6 décembre, la Saint-Nicolas. C'est le 6 décembre, et moi, je trouve que c'est pas juste parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la Sainte-Catherine, on parle beaucoup moins de la Saint-Nicolas.
Il faut être célibataire le 6 décembre.
Il faut être un homme, avoir 30 ans et être célibataire.
Non seulement tu perds 5 ans, mais en plus, on n'en parle pas.
C'est comme la Sainte-Catherine, c'est 25 ans. Voilà.
Moi je me suis fait avoir.
On s'est connus, on avait 30 ans, tu ne l'as pas dit.
Moi, ils ne sont pas venus.
Non, j'en ai jamais vu, mais ça vient de d'où alors,
c'est alors mais justement, je dis, j'ai pas eu le temps de faire recherche.
Oh, pas travaillé. Enfin,
le peu émission. Que j'ai fait, effectivement, à chaque fois, Saint-Nicolas, on me sort les légendes de Saint-Nicolas.
Bah oui,
le
fait que. Tu l'as vu faire ?
Oui, je l'ai vu faire, oui.
J'ai vu des mecs en sabots. Oui, c'est de 30 ans.
Lyonnaise ton truc alors.
Peut-être qu'on en a vu et qu'on a assimilé ça, je sais pas.
J'en sais rien,
de
mais effectivement, c'est quelque chose que je connais.
On remarque pas forcément.
Et j'ai eu un de mes collègues de boulot, effectivement, qui avait 30 ans, qui n'était pas marié, et j'ai vu des photos. Il est magnifique avec sa blouse, son bonnet de nuit et ses sabots.
Ah bah oui, ça
et
va à tout le monde.
Boulot qui lui avait fait ça, qu'il avait trimballé comme ça dans les bars de Lyon. Et alors, est-ce que c'est
humain? Faudrait qu'on le fasse parce que comme nous, rien nous va. Ça ne nous irait pas non plus.
Vous avez 30 ans passé, maintenant c'est foutu. C'est foutu. Enfin bon, si il y a que ça pour vous amuser. Voilà. Bon,
non,
on n'est pas un an près. Hein.
Ah bah non, moi je veux guetter les 30 ans.
Moi je ne savais pas quoi faire le 6 décembre.
Ariane, bravo, voilà une chronique rondement menée. Un tonnerre d'applaudissements. Ça commence et ça se termine par le même. Et maintenant, nous allons passer à Numa.
Ah, on passe pas dessus non plus.
Non, ni dessus, ni dessous, ni à droite, ni à gauche.
À côté.
On passe. Voilà, bravo.
Ah, merci.
Tonnerre d'applaudissements.
J'ai combien de temps ?
Bah, comme les autres.
Pas longtemps.
Voilà.
Ça, c'est secret. Si le chat pouvait arrêter de tirer sur mon câble. Donc moi je voulais vous parler donc d'un livre de Wu Cheng-hen que les cinéphiles m'excusent sans accent.
Épel sera plus simple.
W-O-U donc plus loin T-C-H apostrophe E-N-G-E-N.
Ah bah oui, on comprend mieux maintenant.
Bah oui, c'est plus clair. Donc ça
c'est clair, surtout la radio là.
Donc ça s'appelle Le singe pèlerin ou le pèlerinage d'Occident. Donc c'est édité à la petite bibliothèque Payot. Alors donc c'est une histoire, c'est une très vieille histoire puisque c'est tiré de contes qui se racontaient dans la Chine ancienne et que donc l'auteur dont je ne répéterai pas le nom a tout condensé entre 1505 et 1580, donc c'est un très très vieux livre et c'est palpitant. Donc ça raconte l'histoire de Tripitaka, donc un moine chinois qui est parti.
Tripitaka,
donc un moine chinois qui est parti chercher mieux, hein. les écritures sacrées du bouddhisme, donc en Inde. Et donc
Pipi-caca qui est parti chercher les écritures sacrées du bouddhin. On a bien tout compris.
Effectivement, le trentenaire reste bien jeune.
Bon, certains plus que d'autres.
Certes.
Et donc ça raconte toutes les légendes à travers donc ce fameux singe qui est un gros filou parce que c'est un singe assez filou qui nique la gueule à tous les dieux.
Oui,
où on se rend compte que
le signe malin chez les Chinois.
Mais évidemment, c'est bien pour ça qu'il est malin.
Ça me fait penser à un bouquin pour enfants. Ça.
Oui, et non, et moi ça m'a rappelé un dessin animé que j'ai vu quand j'étais petit mais j'ai pas eu le temps de chercher.
Dragon Ball, il a une queue de singe. Hein.
Oui aussi, mais est-ce que je peux continuer là?
Oui, il a pas longtemps déjà.
Déjà, j'ai pas longtemps. Alors donc,
arrêtez de l'interrompre.
Voilà,
ça
après ils tous. Et donc on découvre tout le système du fonctionnariat du bouddhisme où ils ont véritablement on retrouve une critique de la religion. C'est super drôle parce que visiblement c'est très compliqué, c'est très hiérarchisé et c'est magnifique.
Ah, je crois qu'il a retrouvé Tripitaka.
Oui, c'est, j'ai retrouvé, ça me fait penser au roi des singes.
Kling. Et est-ce qu'il a une dupe en,
je
en peau de tigre?
Oui, il vaut mieux.
Donc ils sont en train de comparer leurs couvertures. Lui avec son livre, entré avec sa BD.
Et bah, je me souviens
sur ta couverture, qu'est-ce qu'il y a? Oh bah non, moi j'ai pas de singe, mais c'est incroyable quand même.
Ah oui, oh. Oui, c'est ça. Attribué à vue, Cheng En, c'est ça?
Ouais, oui, bah ça doit pas être écrit pareil, mais c'est le même.
Il a créé la version enfant.
Oh,
bah ça alors.
Eh mais c'est incroyable.
Mais non, mais c'est un vieux conte.
Mais c'est
ça. Moi j'ai une adaptation pour la jeunesse d'un des quatre grands.
Si vous saviez, ma bonne dame.
Ah bah voilà, je me disais tout de suite, je me connais.
Et donc c'est super drôle. C'est aussi un petit peu pipi caca avec parce qu'ils font quand même des bonnes blagues, notamment à des moines qui leur demandent un don parce qu'à ce moment-là ils sont passés pour des dieux et donc comme offrande ils leur demandent de sortir du temple et ils pissent dans des grands bocals
et
non dit, non ils pissent dans des grands bocals
je vais prendre
dit.
Les références parce que
c'est pas facile
non c'est c'est pas facile
voilà
et pour offrir ça et donc à ce moment-là les autres se rendent compte que la pisse de singe ça sent pas bon et c'est très drôle.
Mais pas celle du singe. C'est à lire à partir de quel âge?
Justement, c'est ce que j'étais en train de regarder.
C'est pour les grands, ça.
C'est pour les.
Oui,
les...
oui, mais enfin, c'est quand même.
Les
dans
plus
la...
jeunes
c'est
pour les
petites bibliothèques.
On a trouvé chez nous,
ça sent un peu son bibliothèque verte ou bibliothèque rose de quand nous, justement.
À partir de quel âge, tu penses? Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être écrit petit.
pour moi, c'est à partir de tous les âges. À partir du moment où on sait lire, on peut lire.
Les caractères en dessous de 10, c'est pour les adultes. De 10 à 12. C'est pour les ados et au-dessus de 12.
C'est pour les vieux.
C'est pour les enfants.
Non, parce qu'après tu régresses. Parce que pour les très vieux, t'as les gros.
Et bah oui, justement, au-delà de 12, la casse, c'est pour les vieux.
Et donc là, visiblement, c'est pour les grands.
Voilà. Bah écoute.
Un tonnerre d'applaudissements.
Tu peux pas meubler un peu le temps que je remplisse mon verre?
Y a pas de problème. Avant que. Comme je suis venu en métro. Donc, j'ai composé un poème. Donc,
le poème.
Ça s'appelle.
Le poème.
Il est bref, hein. Donc ça s'appelle donc c'est un poème rédigé par le collectif Métro Ligne 9, c'est de la merde.
Allons-y, silence absolu.
À 30 ans, si t'es pas mort, c'est que tu vis encore.
Bravo.
C'est tout?
Là, c'est tout. Est-ce qui est pratique? Ce qui est...
On peut pas appeler ça un poème, on peut appeler ça une pensée.
Oui, mais finalement, c'est très profond.
Du moins profond.
Et ce qui est pratique, c'est que. À 20 ans, si t'es pas mort, c'est que tu vis encore. À 40, on peut le replacer. À 31 aussi, 32, 33.
On va mettre la tendre à peu près qu'on passe une émission sur les quadrants.
Oui, oui. Non, mais je peux le replacer quand je veux.
Ok,
ça marche toujours.
Merci.
Oui, sinon après,
cette chronique.
Vraiment un tonnerre, là.
Merci.
Épastrouillante.
Pour ce poème, ou pensée,
ou
haïku.
Tu nous remets un coup de chanson ou pas, là?
Oui, bah attends, on a. S'il te plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Numa, s'il vous plaît. Eh bien voilà, oh quelle tristesse, oh quelle misère, l'émission se termine.
Oh, quel désespoir.
Nous sommes tous tristes, tristeux.
On est tellement contents d'en faire une.
Oui, on en fera une. Ben,
ouais, et puis on sera tous
essayer.
Vraiment trentenaires à la prochaine émission.
Oui,
oui.
Oui sûrement.
Oui, ben moi je serai encore un peu plus trentenaire.
Ah, toi aussi.
Tu ne seras pas encore quadra.
Non. Donc oui, on va essayer de faire une émission pour la prochaine fois un petit peu plus vite que ce qui a pu se passer ces derniers temps, depuis le mois de juillet où ça a été un petit peu... comment dire?
En dents de scie.
Voilà, haché par une scie. D'où l'expression en dents de scie d'Ariane.
Haché en dents de scie.
Merci Ariane.
À chaque occasion, une expression.
Oh, oulala, la maxime du jour. Donc, à chaque expression. Non,
c'est à chaque occasion, une
à chaque occasion, une expression.
Ou alors pour chaque occasion, une expression.
Tu conclus là, c'est sûr.
Oui. Donc voilà, donc comme d'habitude, nous allons remercier monsieur Yann Beaujoin pour ses jingles, notamment la porte qui grince
ouais.
au début d'émission.
Merci Yann.
Hein, connu maintenant dans le monde entier.
Ouais.
hein, qui touche pas un rond dessus parce que c'est en droit d'auteur libre.
Ouais, mais quand même.
Mais quand même, merci.
Parce que nous, on l'aime bien.
Voilà, et puis pour tous les autres jingles, entre autres. Donc, à le plus rapidement possible, peut-être au mois d'avril.
Ne te découvre pas.
Un film.
Voilà. Et nous allons terminer par cette magnifique chanson que nous avons entendue tout à l'heure, qui s'appelle Fumier de nuit. On ne l'a pas dit tout à l'heure.
Ah, voilà. Je ne sais pas, j'étais pas là, j'étais parti chercher du vin. Moi.
Avec une chorégraphie de Kamel Wally, des décors de Donald Cardwell.
Les paroles.
Des textes de Numa.
Dit par André Dussolier.
La musique et l'interprétation de
toi.
Ton verre.
Oui, aussi. Ouais.
Voilà, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je m'en souviens, c'était hier, j'avais les cheveux tout vus et noirs, quand dans le miroir, ce matin, j'ai constaté, oh quelle misère, j'ai des cheveux blancs qui me dévisagent, des poils chenus sur le menton, la triste mine des vieux grisons. Comment veux-tu qu'on m'envisage? Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis, à pas feutrer s'approche du lit, son matériel sort, il m'évite, je dors tranquille, sommeil profond, pas un mouvement. Me refais les temps et la toison. J'ai mis un piège dedans ma chambre, un fil tendu devant la porte pour attraper ce cloporte qui m'insupporte et puis me chante. J'ai veillé autant que j'ai pu, lumière. Silence obtus, j'ai dû merder, je l'ai pas vu, car le silence m'a détendu. Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis, à pas feutrer, s'approche du lit, son matériel sort, il m'épie. Je dors tranquille, sommeil profond, pas un mouvement, mais pile cortex. Et ce n'est pas tout, ta goutille vex, leur fait les temps et la toison. Ne sachant plus vraiment que faire, je prends mon pied et ma bonne foi pour aller au. Trouver solution à cette affaire. J'ai poireauté dans la petite salle. J'ai raconté la vérité. Le commissaire m'a rayonné de mon histoire à cru que dalle. Comment pourrais-je punir fumier? Eh bien, je me suis agenouillé, et Dieu le Père, j'ai prié, avec ferveur, j'ai vénéré, sur mon prie-Dieu, j'ai eu des crampes, ma foi naissante s'est fait la belle, mon montant l'air est naturel, y'a rien à faire pour qu'il décante. Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout ouvre mon logis, à pas feutrer, s'approche du lit. Son matériel sort, il est pire. Je dors tranquille, sommeil profond. Pas un mouvement, mes picor test. Et ce n'est pas tout, ta petite veste leur fait les temps et la toison. Y'a un fumier qui vient la nuit, son passe-partout pour mon logis. À pas feutrer, s'approche du lit. Son matériel sort, il m'épive. Je dors tranquille, sommeil profond. Pas un mouvement, mais picor test. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas ta coutipesse. Leur fait les temps.